Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Ligne droite avec Alexandre de Galza.
Bonjour à tous, chers auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver. J'étais ces derniers jours en Hongrie, à Budapest, pour un reportage que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre chaîne YouTube. Ligne droite se déplace sur le terrain, mais Ligne droite est également ici, entre hommes, avec Richard Decez. Bonjour Richard.
Bonjour Alexandre.
Et avec également Franck à la technique, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Alors aujourd'hui, différents sujets, hein, on va essayer de brosser de manière assez large, avec d'abord le bilan des 10 ans de la pénalisation des clients de la prostitution. Est-ce que ça a marché? Eh bien c'est la question qu'on posera à Delphine Jarreau, présidente de l'Amicale du Nid. Ensuite, à 7h25, nous parlerons économie. La crise budgétaire sur le détroit d'Ormuz va-t-elle mener à l'asphyxie budgétaire? Eh bien, c'est ce que nous verrons avec Patrice Huiban. Ensuite, à 8h20, nous retrouverons 8h20. Oui, c'est ça, pardon. Nous retrouverons Grégor Pupin, évidemment, qui nous parlera du pape en Algérie, visite dont il y a beaucoup à dire, hein, tant sur les discours du pape que sur les discours de Trump sur le pape et du pape sur le Trump sur le pape. Voilà. Et puis enfin, comme chaque mardi, évidemment, ce sera Myriel Écraffray qui sera présent avec nous pour son analyse. Mais nous commençons par un petit point sur l'actualité avec Richard Decez.
Le cimentier français Lafarge a été reconnu coupable ce lundi de financement d'une entreprise terroriste en Syrie à l'issue d'un procès majeur devant le tribunal correctionnel de Paris. L'entreprise est accusée d'avoir versé plusieurs millions d'euros à des groupes armés, dont l'organisation État islamique, entre 2013 et 2014 pour maintenir en activité sa cimenterie située dans le nord de la Syrie, malgré la guerre civile en cours. Selon l'enquête, ces paiements auraient permis d'assurer la circulation des marchandises, la sécurité des employés et la poursuite de la production dans des zones contrôlées par les groupes djihadistes. Verdict, plus d'un million d'euros d'amende pour le groupe Lafarge et plusieurs anciens dirigeants, dont l'ex-PDG Bruno Lafont, ont également été reconnus coupables et condamnés à des peines de prison ferme. Cette décision marque une première en France. Une grande entreprise est reconnue pénalement responsable pour financement du terrorisme dans un contexte de guerre. Elle intervient près de 10 ans après les premières plaintes déposées par des ONG et d'anciens salariés syriens. Un signal judiciaire fort qui pourrait faire date et renforcer la vigilance autour des activités des entreprises françaises à l'étranger.
Et puis vous nous parlez des tensions entre le Vatican et Washington.
Oui, le pape Léon XIV a affirmé ne pas avoir peur de l'administration de Donald Trump en réponse directe aux critiques du président américain. Donald Trump a en effet publiquement attaqué le pape ces derniers jours. Il l'accuse de tenir des positions jugées contraires aux intérêts américains, notamment dans des dossiers sensibles comme les tensions au Moyen-Orient. Pour appuyer ses attaques et rappeler son goût pour la provocation, le président américain a choisi de diffuser sur X un visuel le représentant sous les traits du Christ, avec à ses pieds des malades et des avions de guerre en arrière-plan. En déplacement en Algérie, le pape a répondu tranquillement, affirmant qu'il continuerait à porter sans crainte donc les messages qu'il considère être celui de l'évangile, la paix, y compris face aux grandes puissances. On l'écoute.
En résumé, j'ai dit que le message de l'Église, mon message, le message de l'évangile, heureux les artisans de paix. Je ne considère pas mon rôle comme étant politique ou politicien. Je ne souhaite pas entrer dans un débat avec lui. Je ne pense pas que le message de l'évangile soit fait pour être détourné comme certains le font. Et je continuerai de m'élever haut et fort contre la guerre, cherchant à promouvoir la paix, le dialogue et les relations multilatérales entre les États pour trouver des solutions justes aux problèmes. Trop de gens souffrent dans le monde aujourd'hui. Trop d'innocents sont tués et je pense que quelqu'un doit se lever et dire « il existe une meilleure façon de faire ».
Il a par ailleurs reçu le soutien de dirigeants étrangers comme Giorgia Meloni. Le pape est le chef de l'Église catholique. Il est juste et normal qu'il invoque la paix et qu'il condamne toute forme de guerre, a affirmé la chef du gouvernement italien dans un communiqué.
Et puis quand Trump n'est pas occupé à se brouiller avec le pape, il bloque le détroit d'Ormuz.
Tout à fait. Le blocus qui était annoncé par Trump est bien entré en vigueur hier à 16h. Les États-Unis prévoient désormais d'éliminer tout navire iranien qui tenterait de s'approcher de la zone contrôlée par les États-Unis. Certains navires devraient néanmoins pouvoir passer le barrage à condition d'avoir aucun lien avec l'Iran. L'armée iranienne a bien sûr réagi dans la foulée par ces mots. Les restrictions imposées par la criminelle Amérique sur la navigation maritime et le transit dans les eaux internationales sont illégales, en effet. Cette réaction s'accompagne de menaces à peine voilées. L'Iran affirme en effet qu'aucun port du Golfe ne serait plus en sécurité si ses propres infrastructures portuaires devaient être menacées. Une escalade qui confirme l'échec des pourparlers, mais soyons rassurés, une fois plus, Emmanuel Macron tente d'entrer en scène. Il s'agit cette fois pour notre président d'organiser une conférence entre Paris et Londres en vue d'une mission multinationale pacifique. On a hâte de voir les fruits de ce nouveau numéro et, à défaut de peser sur la scène internationale, espérons que nous n'y perdrons pas une fois plus notre crédibilité.
Et puis l'Ordre des médecins de Paris va être dissous.
Après un vote du Conseil national et une décision confirmée par l'Agence régionale de santé. La cause de cette dissolution est l'accumulation des dérives qui ont été pointées dans un rapport de l'Inspection générale des finances. Des médecins condamnés, y compris pour des faits graves, étaient toujours inscrits sans procédure disciplinaire. Et en interne, dépenses injustifiées et gestion opaque. À cela s'ajoutent deux élections annulées pour fraude et irrégularité, une accumulation de dérives sur plusieurs années devenue impossible à ignorer. Une administration provisoire a donc été mise en place avec de nouvelles élections prévues prochainement. Une décision rare qui montre l'ampleur des dysfonctionnements au sein d'une institution pourtant censée faire respecter la déontologie, les règles censées garantir l'éthique médicale. Encore une fois, il a fallu un scandale pour qu'il y ait un semblant de reprise en main.
Et pour le sport, vous nous parlez de nage en eau libre.
Oui, un très bel exploit annoncé ce matin. Le français Steve Stevenhart est devenu le premier français à traverser le détroit de Magellan à la nage. Il a passé 15 jours dans une cabine en Patagonie à attendre une météo clémente avant de se jeter dans une eau à 8 degrés sans combinaison pour nager 7 km contre les courants forts du Pacifique. Après le détroit de Beagle, celui qu'on surnomme le Phoque, coche ainsi la deuxième épreuve de la triple couronne du bout du monde. Il doit encore valider le Rio del Plata pour devenir une légende, celle du premier homme à accomplir ce défi.
Mais il n'est pas prêt de faire le détroit d'Hormuz. Et puis, vous nous parlez de la météo, Richard.
Et oui, aujourd'hui, temps calme et ensoleillé sur la majeure partie du pays, avec un peu plus de nuages sur la façade atlantique, en Bretagne, en Normandie et des averses. Ça étonnera tous ceux qui connaissent le climat là-bas. 4 degrés à Lille, 3 au Mans, 4 à Chartres, 5 à Paris. Il fait froid, mais cet après-midi, les maximales seront de 14 degrés sur le Grand Est, 16 pour les Hauts-de-France et de 19 à 20 degrés autour du Golfe de Lyon. Et nous fêtons en ce 14 avril Sainte-Maxime, Sainte-Lidvine, Saint-Iébus et Saint-Valérien. Et Sainte-Lidvine donc, est une sainte mystique du 14e siècle qui a été canonisée en 1890 par Léon XIII.
Eh bien c'est merveilleux ça, merci Richard.
Je vous en prie.
Ligne droite.
Mais vous ne partez pas très loin étant donné que vous restez faire votre décryptage.
Absolument, et je vais vous parler des jours fériés, Alexandre, et à vous tous aussi, chers auditeurs. Comme vous le savez, Alexandre, parmi les 11 jours fériés en France, le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les travailleurs avec maintien de la rémunération. Eh bien, le 1er mai va rester férié, Alexandre, malgré l'odieuse tentative du chef de Renaissance, Gabriel Attal, avec son texte visant à faciliter le travail le 1er mai dans les commerces de proximité. Le 1er mai va rester férié et c'est un peu la fête à gauche. À écouter LFI, c'est comme s'ils avaient réussi à rejouer la prise de la Bastille. Victoire, a écrit Mathilde Panot. Victoire, le gouvernement est obligé de renoncer au passage en force pour généraliser le travail le 1er mai. Nous ne laisserons pas la Macronie, la droite et l'extrême droite nous voler le 1er mai, arraché par les luttes et dans le sang. Bon, ben les Français, eux, ils étaient pour que le 1er mai leur soit arraché. 3 Français sur 4, pour être précis, pourvu qu'il s'agisse de salariés volontaires et payés double, ce qui était effectivement le projet de loi de Gabriel Attal. Un sondage commandé par la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises, publié début avril, disait même que 73,7% des Français soutenaient la possibilité de travailler le 1er mai. À la question « Seriez-vous favorable à ce que les salariés volontaires puissent travailler le 1er mai dans les commerces de proximité avec une rémunération doublée ?» Eh bien, les sondés ont répondu « Oui ». Et d'une manière très cohérente, les 18-24 ans sont « Oui » à 67,5%, les 25-34 ans à 75,9%, les 35-49 ans à 75,4% et même les retraités qui n'y sont pas vraiment intéressés, eh bien, étaient d'accord à 73,4%. Les Français étaient pour, mais en étant république, en étant démocratie, alors l'avis des Français est important, certes, mais moins celui que des organisations syndicales qui ne sont pas du tout représentatives des Français. Le ministre du Travail a donc expliqué les raisons du recul du gouvernement à la sortie d'une réunion avec les syndicats. Le gouvernement est conscient de la sensibilité particulière de ce sujet, a assuré Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail. Mais rassurez-vous Alexandre, le gouvernement souhaite un dialogue social approfondi avec les partenaires sociaux sur le périmètre des activités et commerces concernés par un travail le 1er mai. Seul un dialogue de branche le permettra, a déclaré Sébastien Lecornu, assez content d'avoir saboté une loi portée par Gabriel Attal, l'homme qui sait mieux que quiconque en France quels sont les secrets désirs des boulangers et des fleuristes. Et Gabriel n'était pas content. En France, en 2026, des grandes surfaces ou des les chaînes de fast-food peuvent ouvrir le 1er mai, mais pas les fleuristes ou les boulangistes indépendants qui le veulent. Il a ajouté « Il faudra revenir sur les causes profondes de l'absurdité politique et technocratique de cette situation. Si ça veut dire remettre en cause tout le fonctionnement de la Macronie, on est d'accord, mais en attendant, il a eu une très bonne idée. Pour sortir par le haut de cette situation, nous appelons le gouvernement à donner instruction aux administrations, aux inspections concernées de ne pas sanctionner les artisans qui feront le choix d'ouvrir le 1er mai prochain. » Voilà. Un ancien Premier ministre, un futur candidat à la présidence de la République, appelle tout simplement le gouvernement à ne pas faire respecter la loi. Mais où est-il allé chercher une idée pareille, peut-être dans les instructions données aux forces de l'ordre de ne pas aller patrouiller dans les banlieues pendant le ramadan au moment du Covid? La République sait détourner son regard quand la paix sociale est à ce prix. Elle sait aussi éborgner les gilets jaunes, comme quoi tout est une question de point de vue. Mais je ne voudrais pas vous laisser, Alexandre, sur l'impression fausse d'une nation tout entière assoiffée de travail. Dans son dernier rapport sur l'état du monde du travail, l'Institut Gallup a alerté la semaine dernière sur le désengagement des salariés dans le monde et particulièrement en Europe et en France où seulement 8% des travailleurs se disent investis au bureau. Il n'y a que les Polonais et les Croates qui sont encore plus dégoûtés du travail que nous. Mais que se passe-t-il? Eh bien, tout simplement, les gens sont démotivés, les gens sont lassés, il y a une fatigue psychologique, mais c'est pas à Radio Courtoisie qu'on risque ça, n'est-ce pas, Alexandre? Voilà. Bref, le 1er mai restera férié et peut-être le sens de cet échec n'est ni la victoire de la gauche ni la lâcheté des macronistes comme le dit Bruno Retailleau, mais tout simplement qu'il y a vraiment des lois plus intelligentes et plus urgentes à imaginer pour le bien-être des Français, diminuer les impôts, assurer la sécurité et ne pas importer des travailleurs qui acceptent des tâches sous-payées.
Merci beaucoup, Richard.
Ligne droite. Debout les Français.
Pour ce premier entretien, nous allons parler, chers auditeurs, des 10 ans de la pénalisation des clients de la prostitution. Voilà, ça fait 10 ans que la loi et la nouvelle loi de 2016 est passée, la loi qui, voilà, sur la lutte contre le système prostitutionnel. Et ça fait 10 ans donc que la France est un pays classé comme abolitionniste, voilà, pour l'abolition de la prostitution. Pour en parler, nous recevons Delphine Jarreau, déléguée générale de l'Amicale d'Uni. Delphine Jarreau, bonjour, est-ce que vous nous entendez?
Oui, bonjour.
Alors, la première question que je voulais vous poser, c'est évidemment, ça fait 10 ans, donc c'est le moment de tirer peut-être un premier bilan de cette politique. Ce qu'on constate, c'est d'abord que, évidemment, la prostitution n'a pas disparu, mais au contraire, qu'elle s'est métamorphosée depuis cette loi.
Oui, elle s'est métamorphosée comme tout ce qui s'est passé depuis 10 ans, et plus largement depuis l'arrivée d'Internet dans notre paysage de tous les jours. Donc oui, les réseaux de proxénétisme, de traite se sont adaptés aux réalités de mise en contact des personnes.
Et voilà, donc effectivement, il y a une forme de, on va dire, de digitalisation de la prostitution. D'un autre côté, on estime à peu près à 40 000 donc le nombre de prostituées aujourd'hui en France, et un nouveau phénomène, phénomène qui existait déjà auparavant, mais qui est pourtant en croissance depuis cette loi, c'est tout de même la prostitution des mineurs. Alors comment ça se fait?
Alors déjà, ce sont des personnes en situation de prostitution. Je le dis parce que prostituée a suffisamment de stigmates. Je préfère ce terme. Ensuite, quant aux enfants, on parle d'exploitation sexuelle des enfants. En effet, un enfant ne se prostitue pas. Voilà. Donc, c'est juste une visibilité grâce aux médias notamment, grâce aux pouvoirs publics qui ont mis ça à l'agenda politique. Quand les mineurs, c'est une exploitation qui a toujours existé, qui repose sur la pédocriminalité. Et la pédocriminalité, on est tous bien conscients que ça existe depuis, hélas, très très longtemps. De la même façon, la domination masculine et qui réduit des femmes, d'autres hommes, des personnes transidentitaires à des objets sexuels, à des fins de réalisation de besoins soi-disant irrépressibles sexuels, et que ça ne dérange absolument pas de réduire à des choses, à des objets, d'autres êtres humains. Et donc, la loi, je tiens à le dire, n'est pas que la pénalisation des clients. C'est une loi qui est cohérente, qui a été votée après 2 ans et demi de débat, une résolution votée à l'unanimité dès 2011 à l'Assemblée nationale. On n'est pas devenu abolitionniste. On avait ratifié la convention de 1949, on l'a ratifié en 1960. Donc c'est global. Bon, à part une entorse en 2003 qui pénalisait le racolage passif, globalement, il s'agissait quand même d'un engagement abolitionniste de la France. Donc, la loi, elle repose sur quatre piliers, la prévention, le renforcement de la prévention, notamment égalité filles-garçons et une approche sur la vie affective égalitaire. Ensuite, c'est la protection des personnes en situation de prostitution qu'on reconnaît comme des victimes d'un système. Et enfin, le renforcement de la répression des réseaux qui les exploitent, qui en tirent profit, et la pénalisation des clients. Et en face, puisqu'il s'agit de changer de paradigme, la dépénalisation des personnes en situation de prostitution. Donc la loi n'est absolument pas réduite à la pénalisation des clients.
Et d'un autre côté, quels sont donc les effets concrets de cette loi? Qu'est-ce que vous constatez justement 10 ans plus tard?
10 ans plus tard, les parcours de sortie de la prostitution qui ont été instaurés par cette loi ont permis l'émancipation de 2500 personnes du système prostitutionnel. C'est un parcours qui, pendant 2 ans, permet une réinsertion socio-professionnelle des personnes avec une allocation faible, hein, 559 €, donc légèrement inférieure au RSA, mais une allocation et une autorisation provisoire de séjour. Pourquoi le législateur a pensé à cette autorisation provisoire de séjour? C'est parce que les victimes du système prostitutionnel sont captées par les exploiteurs parce que vulnérables, et parmi les plus vulnérables, les personnes sans titre de séjour, qui ont été parfois captées par la traite des êtres humains et qui ont traversé la Méditerranée ou l'Atlantique ou viennent de l'Est pour assouvir les besoins soi-disant irrépressibles sexuels d'hommes qui sont entre 14 et 20% de la population qui ont recouru. Donc, ces parcours sortis de la prostitution ont des résultats extraordinaires puisque les personnes ont une capacité de résilience, de réinsertion extrêmement forte et la majorité extrêmement importante à trouver un travail, l'apprentissage de la langue française, le travail, un hébergement, voire un logement. Et il s'agit d'un vraiment un tremplin extrêmement important. Pourquoi les personnes françaises sont extrêmement minoritaires dans ce dispositif? Parce qu'elles bénéficient du même accompagnement, mais sans passer par ce parcours, puisqu'elles ont par définition une carte d'identité et le RSA, donc pas besoin de passer par ce dispositif. Donc il n'y a pas besoin de ce parcours pour tout le monde pour être accompagné vers la sortie ou la réduction des risques et des dommages.
Il y a également un autre sujet auquel on pense, notamment pour des histoires un petit peu terribles qui ont eu lieu ces derniers mois, ces dernières années, c'est même la protection même physique des prostituées, dans le sens où effectivement, par exemple, on entendait parler de l'affaire du bois de Vincennes qui a eu lieu l'année dernière, il me semble. De manière générale, est-ce qu'il y a aussi une évolution sur leur protection même physique?
Les personnes en situation de prostitution sont soumises à une violence extrême et quotidienne, qu'elles soient sur des routes, sur des bois, dans l'espace public globalement, qu'elles soient à l'hôtel, dans des Airbnb. Avant, après la loi, elles sont malheureusement soumises à d'extrêmes violences, puisqu'il faut savoir que les hommes qui ont recours à la prostitution, 14 à 20% de la population, sont d'un ce qu'on appelle sexisme hostile, et des études l'ont révélé, notamment le rapport du Haut Conseil à l'égalité sur le sexisme. Et c'est donc des personnes qui estiment, donc 24% des hommes sont d'un sexisme hostile, donc estiment vraiment les femmes comme inférieures. Donc autant vous dire que les prostituées sont la
et le réceptacle un peu, oui.
Le summum des personnes qu'ils haïssent, et leurs violences sont extrêmes à leur égard. Sans compter les violences du réseau lui-même d'exploitation. Donc oui, ces personnes ont toujours subi des violences, c'est dramatique. Elles sont déjà extrêmement vulnérables avant d'être captées par les systèmes prostitutionnels et leur santé physique, psychologique, sexuelle se dégrade évidemment fortement pendant l'exploitation.
Et également, je reviens sur cette affaire de la pédocriminalité parce que c'est devenu un sujet qui est de plus en plus courant aujourd'hui. On pense notamment à ce qui s'est passé à Paris, c'est un événement de la campagne municipale, mais on peut aussi évoquer eh bien, cette histoire de l'aide sociale à l'enfance, où de véritables réseaux se développent, ou même à un niveau un petit peu plus international, l'affaire Epstein. Comment on traite justement ces cas de pédocriminalité qui sont évidemment, on l'imagine, assez différents des cas de proxénétisme classique?
En tout cas, c'est la même mécanique qui joue, hein. C'est-à-dire la mécanique de la domination. Et à partir du moment où vous ne considérez pas l'autre dans l'altérité, dans l'égalité, vous pouvez inférioriser, que ce soit une femme, un homme, une personne transidentitaire, et évidemment un enfant qui, par son âge, est beaucoup plus vulnérable. Donc, il s'agit d'un système de domination. De domination très très puissante, très destructrice. Concernant les enfants, oui, il y a des pédocriminels et la majorité de ces pédocriminels, ils ne sont pas dans les écoles à Paris ou ailleurs. Ils sont là évidemment en minorité, mais ils sont surtout derrière leurs écrans à rechercher des victimes, et notamment avec l'achat d'actes sexuels auprès de jeunes. Donc, ils savent parfaitement la minorité, puisque les clients, les acheteurs prostitueurs parlent sur les chats en même temps qu'ils cherchent des proies. Donc, ils savent très bien qui se présente comme ayant 18 ans et a largement moins que 18 ans.
Et d'un autre côté, autre point, je ne sais pas si vous avez travaillé particulièrement sur ce sujet, mais c'est aussi la disparité géographique, dans le sens où, selon ce que on a pu, ce qu'on peut voir sur ces 10 ans, c'est un sujet qui est essentiellement traité à Paris, mais dans le reste de la France, alors que la prostitution existe partout, en fait, finalement, il y a très peu de condamnations dans les autres, dans certains départements. Comment ça se fait ?
Alors les réseaux de traite, les réseaux de proxénétisme sont sur toute la surface du territoire français, outre-marin ou hexagonaux. En revanche, la pénalisation des clients via une amende de 1 500 euros, 3 750 si les personnes sont récidivistes, et je ne parle pas pour les mineurs, ça peut aller jusqu'à qualification de viol pour les moins de 15 ans. Oui, effectivement, c'est extrêmement concentré. Je ne sais absolument pas pourquoi les forces de sécurité intérieure n'agissent pas de façon égalitaire sur tout le territoire. Mais c'est vrai que 58% des 1 400 clients qui ont reçu une contravention en 2025 étaient à Paris. Oui, forte concentration, inégalité. Bon, après, il faut dire aussi la réalité, c'est que les clients en ligne, qui rentrent en contact en ligne avec, avec les personnes en situation de prostitution, sont encore peu contraventionnalisés par rapport aux personnes dans l'espace public. Oui. Mais les forces de sécurité intérieure développent des systèmes pour mieux les appréhender. Et c'était présenté hier au comité de suivi de la stratégie interministérielle.
Merci beaucoup Delphine Jarreau d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de l'Amicale du Nid. Et justement, peut-être qu'on vous réinvitera pour parler aussi des autres lois qui pourraient arriver, notamment sur des sujets comme OnlyFans, Mime, etc. Enfin, les nouvelles formes, quelque part, de prostitution. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et on vous dit à bientôt sur les lignes droites.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, il est 7h24. Merci d'être avec nous ce matin à 7h50. Ce sera la chronique de Richard de Seize. Mais tout de suite, nous allons parler économie avec Patrice Huiban.
Ligne droite. Le grand entretien.
Et pour ce grand entretien, nous recevons Patrice Huiban. Patrice Huiban, vous êtes, vous avez une description longue comme le bras, je dois dire, sur notre document. Vous enseignez en tout cas l'économie de la défense à Sciences Po Paris. Vous êtes président aussi du Nouvel Essor Français, auteur de nombreux ouvrages, donc, vers un nouvel essor français en 2024. Aujourd'hui, vous avez publié une tribune dans Atlantico qu'on a lu, qui effectivement explique que la crise énergétique pourrait bien mener la France au bord de l'asphyxie budgétaire. Pourquoi ?
Bah, tout simplement parce que l'État est là pour faire face à protéger les Français dans des crises de ce type, sauf qu'on est complètement à l'os, on est incapable de réparer le toit par beau temps, contrairement aux autres pays européens, ce qui fait qu'on n'a plus du tout de marge de manœuvre de nos jours.
Oui, alors ce qui est justement parmi les propositions, il y en a beaucoup, notamment on parle de blocage des prix, on parle de réduction de la TVA, on parle de réduction de l'assise, on parle de... Il y a plusieurs mesures qui sont proposées pour permettre de réduire les prix du carburant. Est-ce qu'il y en a une seule qu'on pourrait se permettre ?
Oui, bien sûr, simplement on n'a plus de marge de manœuvre, parce que Lionel Jospin, dans les années 2000, avait mis en place, vous savez, la TIPP, taxe intérieure sur les produits pétroliers, qui ensuite s'est appelée TICPE, maintenant assise. Donc la taxe sur les produits pétroliers, c'est-à-dire 60% du prix de ce que vous achetez à la pompe. Donc, sauf qu'aujourd'hui, on n'en a plus les moyens, parce que là, ça nous permettrait de façon très rapide et efficace de baisser le prix à la pompe, vous voyez, ou même les chèques énergie, etc. Mais aujourd'hui, on est complètement à l'os, ce qui fait qu'on nous explique que c'est parce qu'on a tiré les leçons du quoi qu'il en coûte et qu'on n'est pas un pécunieux, mais simplement c'est qu'on n'a plus les moyens. Alors après, on essaie de verser quelques petites aides qui ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. On sélectionne alors plutôt les agriculteurs, les transporteurs que les taxis ou les infirmiers libéraux. On se demande pourquoi d'ailleurs. Tout simplement parce qu'on n'a plus du tout les moyens de protéger les Français en fait.
Oui, alors justement... Comment est-ce qu'un pays fait dans une situation avec un déficit de 5%, avec une dette de... j'oublie le chiffre chaque année, ça monte tellement, mais voilà, qui représente 130% du PIB. Comment est-ce qu'on fait pour justement trouver un déblocage dans cette situation ?
En fait, la situation de la France aujourd'hui, il ne faut pas raisonner par rapport au PIB, le déficit public est essentiellement le déficit de l'État par rapport au PIB. 5%, ça ne parle à personne. C'est comme si on comparait votre découvert bancaire à votre patrimoine, si vous voulez. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, simplement, la France aujourd'hui, c'est comme si vous gagnez environ 3500 euros et vous dépensez 5000. Et ceux qui vous prêtent les 1500 euros sont majoritairement pas de votre cercle personnel et peuvent vous envoyer l'huissier à chaque instant et taper derrière dans votre épargne. Le cadre législatif et réglementaire est déjà prêt. On a la loi Sapin II de 2016, le Haut Conseil de stabilité financière, et on prévoit de pouvoir bloquer votre épargne si d'aventure on est face à une crise financière systémique. Donc,
Mais Patrice Huiban, mais ça fait 10 ans qu'on entend parler de bloquer l'épargne, ça n'est jamais arrivé. Il y a quand même très peu de pays, même dans des situations catastrophiques, qui l'ont fait. Je suis même pas sûr que la Grèce...
Si, il y a plusieurs pays qui ont été mis sous tutelle du FMI et ou de la BCE. On pense au Portugal, à Chypre, la Grèce bien évidemment, l'Irlande aussi. Donc c'est pas du tout quelque chose de fantaisiste. Simplement, ce qui nous sauve pour l'instant, c'est l'arrimage à l'euro. L'arrimage à l'euro, l'Union européenne aurait dû justement nous protéger contre ces dérives budgétaires. Sauf qu'à partir de 2015, l'Allemagne a accepté de racheter nos déficits souverains, nos déficits publics. Et donc, on a fait fonctionner la planche à billets à l'échelle européenne. Et ce qui fait que les tensions inflationnistes ont commencé bien avant la crise en Ukraine et la crise sanitaire. Parce qu'il ne faut pas être docteur en économie pour savoir que quand vous créez plus de monnaie, qu'il y a de biens et services en circulation, qu'est-ce qui s'adapte ? C'est le prix. Voilà.
Et alors, on est quand même dans une situation dans laquelle la dette est devenue tellement importante que, en fait, elle représente la moitié environ du patrimoine total des Français.
Les Français ont hors immobilier 6 000 milliards d'euros d'épargne, et la dette publique, comme vous dites, elle est à 3 300 milliards d'euros. Mais en fait, c'est pas trop le stock de la dette qui compte, c'est à la fois la tendance. Donc, on voit bien que ce qui inquiète les marchés, le taux d'intérêt augmente, c'est qu'on n'a pas la capacité d'endiguer cette fuite en avant budgétaire sur le moyen terme. Donc, c'est la tendance. Et qui détient cette dette ? Si vous avez la dette japonaise rapportée au PIB japonais, c'est 230%. Oui. Mais ce sont les Japonais qui détiennent leur dette. Vous voyez ? Alors que nous, à plus de 50%, ce sont des, des entités étrangères, c'est-à-dire des fonds de pension anglo-saxons, des fonds souverains du Moyen-Orient, des assurances, des banques d'affaires, etc.
Et pourquoi justement nous en France on n'a pas réussi à mettre en place ce système, on va dire à la japonaise, qui permet en fait effectivement aux Français d'être leurs propres créanciers, leurs propres débiteurs?
Ah, c'est un peu déjà le cas, puisque l'épargne des Français, elle est quand même détournée, plutôt que d'aller vers nos PME, elle est quand même détournée vers le rachat d'obligations d'État,
si oui, vous voulez. Partie,
mais... Donc en partie, mais après, on a un tel niveau aussi de dette qu'on est obligé de faire appel à des acteurs extérieurs.
Et d'un autre côté, on voit quand même que la question de la dette pèse à un point que je crois que les intérêts de la dette, comme le faisait remarquer un auditeur, c'est quand même 80 milliards par an.
Pas tout à fait de mémoire, je crois qu'on est plutôt à 60, mais peu importe, c'est le budget des armées. Dans un moment où on doit réarmer, c'est l'équivalent du budget des armées. Donc il y a des mesures qu'on peut prendre simplement. Si vous voulez, on est face à des gouvernements qui ne travaillent pas leur dossier, qui subissent. Je vais donner quelques exemples. Si on supprimait les 2300 aides publiques aux entreprises, qui représentent déjà 5 à 7 milliards de frais de gestion pour l'État. Ces aides publiques, plus de 100 milliards d'euros d'aides directes, ça profite à 70% aux grands groupes qui n'en ont pas vraiment besoin, puisqu'on a autant de grands groupes que les Allemands, on a 3 fois moins de grosses PME exportatrices, ces entreprises intermédiaires que les Allemands, et 2 fois moins les Italiens. Ces entreprises-là ne peuvent pas optimiser comme les grands groupes, sont écrasées de prélèvements obligatoires et de normes. On a le taux de prélèvements obligatoires sur les entreprises parmi les 3 plus élevés de l'OCDE. Donc si vous supprimez ces 2300 aides publiques aux entreprises, même le MEDEF le propose, et vous baissez à l'euro près les impôts, taxes, cotisations qui pèsent sur ces entreprises françaises, ça profitera à 70%, donc 70 milliards d'euros à nos PME qui constituent le cœur du réacteur économique. C'est là qu'il y a des gisements d'emploi, de pouvoir d'achat, ce sont des entreprises, c'est le capitalisme à visage humain, ce que nos éditeurs connaissent dans les territoires et qui emploient 70% des actifs du secteur privé.
Oui, bien sûr, c'est-à-dire que pour le coup, on arrive quand même dans une situation, enfin, c'était un rapport qui est sorti, je crois, l'année dernière, justement, sur les aides publiques aux entreprises, un rapport d'ailleurs rédigé en partie, je crois, par un sénateur communiste, si je ne m'abuse, Fabien Gay, et justement qui alors, avait en plus... de révéler un montant, je crois, autour de 200 milliards même.
Alors oui, parce qu'il comptait les prêts.
Exactement.
Moi, je parle des aides directes, les 100, plus de 100 milliards.
Mais en l'occurrence, même restons à 100 milliards, je vous les accorde. D'une certaine façon, il y a même une certaine forme d'opacité dans la manière d'accorder ces aides publiques. Et on arrive dans une situation que vous décrivez, hein, mais... où le bureaucratisme fait qu'on donne des aides et en même temps qu'on arrive à un niveau de complexité, on va dire, fiscale qui forcément pénalise en même temps ces entreprises. Comment on fait cette remise à zéro quelque part
Il faut assumer une forme de Big Bang. On est en 58 aujourd'hui, change le général de Gaulle en stock. On était sous tutelle du FMI en 58, on n'y est pas encore, mais ça va arriver. Et donc, voilà, il faut assumer, on n'est plus dans une logique de réforme. Vous voyez, ce que j'essaie d'expliquer à différents mouvements politiques de droite et mais aussi de gauche avec qui j'en échange et qu'on partage nos idées, c'est qu'on est dans une logique de refondation du pays. Revenir à l'essence des choses, de ce qui relève de l'État, des collectivités, des organismes de sécurité sociale et des entreprises. Aujourd'hui, vous savez, dans un régime libéral au sens économique, capitaliste comme le nôtre,
on a l'impression d'être encore dans l'inertie du XXe siècle.
Oui, mais c'est surtout que dans un régime capitaliste comme le nôtre, les aides publiques doivent être l'exception, c'est devenu la règle. Plutôt que de baisser les taux, on a complexifié, on a mis des trous partout dans les assiettes fiscales. Et donc, qui s'en sort? Ce sont les grandes entreprises qui ont les compétences juridiques et administratives pour remplir les CERFA et obtenir ces aides, alors que c'est pas l'artisan boulanger, c'est pas celui qui crée son entreprise, c'est pas le chauffeur de taxi.
L'agriculteur même, en fait.
Ce ne sont pas ces gens-là qui ont le temps et les compétences juridiques et administratives pour remplir ces dossiers.
Mais, je prends le cas des agriculteurs. On fait régulièrement des entretiens ici avec eux sur Ligne Droite. Ce qu'on constate, c'est que pour le coup, eux passent, ils nous disent, 30 à 50% de leur temps à remplir de la paperasse pour obtenir la PAC, pour obtenir des subventions régionales, pour obtenir tout ça. Évidemment, c'est une répartition du temps de travail qui est excessivement bureaucratique, mais même de manière générale, on a l'impression que, en fait, dans les années 80-90, on s'est laissé un petit peu entraîner par la queue de comète, on va dire, des Trente Glorieuses, et que finalement, ça fait 25 ans qu'on poursuit ainsi sans...
Et puis tout simplement parce qu'on n'a pas affaire à des hommes d'État qui prévoient le pire en espérant le meilleur, surtout qui raisonnent, qui préparent la prochaine génération et pas la prochaine élection, si vous voulez. Et donc, dès qu'on a une situation plus calme, alors qu'on est en déficit budgétaire, on va nous parler de cagnotte, mais c'est hallucinant. On devrait d'abord commencer à rétablir nos comptes. Je rappelle que plusieurs pays dans l'Union européenne sont en excédent budgétaire. Donc l'Irlande, le Danemark, même Chypre et le Portugal. Et des pays sont proches de l'équilibre, comme la Suède et les Pays-Bas. Donc, ce n'est pas comme si on était face à une crise globale. La France est au fond de la classe de l'Union européenne. Alors, je veux bien que l'Union européenne soit une contrainte. Nous aussi, on est comme beaucoup de Français, en colère contre la Commission. Mais c'est trop facile, si vous voulez. 80% des problèmes sont franco-français. Et nous, on est au fond de la classe de la zone euro. Tous les pays de la zone euro, par définition, sont soumis aux mêmes contraintes. Et nous, on est au fond de la classe en termes de déficit public, d'endettement, de déficit commercial, d'insécurité, du fonctionnement de nos juridictions, par exemple, hein, de notre justice. Donc, tout simplement parce que l'État est obèse, trop d'agents dans les bureaux, pas assez sur le terrain, trop de gras, pas assez de muscles.
Et d'un autre côté, on peut même constater que les personnes qui dirigent actuellement, je pense notamment à Sébastien Lecornu, se félicitent d'une réduction de 0,3% du déficit
mais
public.
Bien sûr, mais attendez, je suis désolé de le dire, mais on n'a pas des hommes politiques à la hauteur des enjeux, si vous voulez. On est en médiocratie. Ce sont hélas pas les meilleurs de la nation qui sont à la tête de la nation parce que la politique ne donne pas envie. Les partis politiques ne travaillent pas. La présidentielle écrase tout en France. Nos écuries politiques devraient être des laboratoires d'idées qui se présentent aux élections. Ce sont devenus des écuries à égaux. C'est le concours de beauté permanent pour savoir qui on va mettre sur l'emballage. Il faut d'abord faire le produit. Et le produit, c'est un projet pour la France de refondation. Et ça ne s'improvise pas. Vous savez, De Gaulle, en 58, en tant que dernier président du Conseil de la 4e, a pu signer, tenez-vous bien, plus d'une ordonnance par jour. Mais vous êtes capable de faire ça en 6 mois et de redresser la situation à partir du moment où vous avez travaillé avant. Vous voyez, donc pour être bon, nos éditeurs donc, le savent dans nos métiers respectifs, pour être bon, il faut travailler. Ce n'est pas parce qu'on travaille qu'on est bon, mais la règle, c'est que tous ceux qui sont bons travaillent. Et nos politiques ont oublié de travailler. Et quand ils se mettent à travailler, éventuellement, c'est quand ils sont aux manettes. Mais c'est trop tard.
Il y a quand même des propositions qui viennent, et notamment, alors, forcément, c'est un petit peu la tendance à droite depuis quelques années. C'est cette idée de dégraisser le mammouth autant que possible. Même au centre, cette idée vient. Je pense à l'ancien ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, qui vient de lancer un parti politique, un autre parti centriste, comme si on en manquait, mais qui propose donc de s'attaquer par exemple au problème des retraites. Il y a cette question, par exemple, qui est toujours compliquée, hein, mais même David Lisnard, des Républicains, lui aussi candidat à la présidentielle, en parlait l'autre jour, mais cette idée du poids des retraites dans l'économie qui empêcherait finalement, qui pèse aujourd'hui, les retraites pèsent environ 25% tout de même des dépenses de l'État, et ça empêcherait finalement le pays de se remettre en route quelque part.
Alors il n'y a pas que ça, il faut à la fois lâcher la bride sur le coup de nos chevaux de course, les PME, hein, les moins de 5000 salariés, TPE, PME, ETI, avec notamment cette suppression des 2300 aides publiques et la baisse des prélèvements obligatoires de 100 milliards, ce qui en plus permettrait un gain de 5 milliards d'euros de frais de gestion.
Oui, ce que j'allais dire, c'est parce que les frais de gestion à chaque fois surajoutent bien sûr à tout ça, c'est-à-dire qu'il faut l'administration.
Voilà, donc il faut lâcher la bride sur le coup de nos chevaux de course, les PME, pour ramener de la croissance, de l'emploi, du pouvoir d'achat, et en même temps, il faut effectivement freiner les dépenses. Mais là, il y a des gisements, si vous voulez, assez énormes. Donc on parle beaucoup évidemment de l'aide publique à l'étranger auprès de pays qui ne sont plus en développement, qui sont hostiles à la France, comme la Turquie ou l'Algérie.
Mais ça, c'est une mesure cosmétique, pardon.
Oui, bien sûr, c'est cosmétique, mais alors des mesures beaucoup plus qui ont beaucoup plus d'impact, par exemple. On parle beaucoup des retraites, parce que les dépenses sociales constituent l'essentiel des dépenses publiques. On est à pratiquement 1 700 milliards de dépenses publiques, c'est 900 milliards de dépenses sociales. Mais on parle beaucoup des retraites, mais on oublie de parler des dépenses de soins. Aujourd'hui, le fait qu'on ne partage pas les données de santé, qu'on n'oblige pas les médecins de ville et l'hôpital à remplir mon espace santé qui existe, qui est une coquille vide, tenez-vous bien, ça génère 30% d'ordonnances inutiles. 30% de gaspillage à grande échelle parce que quand nos médecins reçoivent leurs patients, dans beaucoup de cas, ils n'ont pas leur profil médical. Et en plus, ça génère des drames sanitaires, sans compter des données qui sont confiées aux GAFAM. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça fait 10 points d'écart par rapport à l'OCDE. On serait capable, en obligeant les médecins de ville et l'hôpital, sous peine de déconventionnement avec l'assurance maladie, à remplir mon espace santé, on serait capable d'économiser, on estime, 10% des dépenses de soins, 30 milliards d'euros. Vous voyez, et si je vous rajoutais à ça la sécurisation de la carte vitale, pas loin de 10 milliards d'euros par rapport aux fraudes, sachant que les fraudes, ce sont essentiellement à 70% des professionnels de santé.
Mais d'autant que quelque chose qui est assez surprenant, c'est que là, par exemple, cette mesure justement dont vous parlez sur mon espace santé, mais aussi évidemment la question des fraudes, on sait que par exemple, un employé public dans les fraudes, c'est un employé public qui est rentable. généralement, enfin en fait, c'est-à-dire qu'en fait quand on embauche quelqu'un pour dans la lutte contre la fraude fiscale ou sociale, eh bien ça devient tout de suite un employé, enfin un fonctionnaire rentable, ce qui est quand même pas toujours courant. C'est des mesures qui sont extrêmement populaires théoriquement, bien lutter sûr. Contre la fraude, lutter contre les excès. Pourquoi est-ce que les mesures populaires ne sont pas prises?
Parce qu'on a des politiques qui ne travaillent pas pour commencer, deux qui ne sont pas courageux, parce que si vous voulez, pour redresser la barre, il faut aussi être capable, un homme d'État digne de ce nom, c'est quelqu'un qui est fort avec les forts et bienveillant envers les faibles, qui protège les Français. Vous savez, la valeur d'une nation, c'est la valeur qu'elle accorde à ses citoyens les plus fragiles. Parce que dans le système de soins, ce qu'il faudrait faire, ce que nous on propose, mais là, il faut négocier avec les médecins. Il faut leur dire, écoutez, vous ne gagnez pas assez, ils sont payés à 30 euros à l'acte, c'est 40 euros la moyenne européenne. Donc, passons à 40 euros la consultation, voire 50 euros, c'est ce qu'ils demandent. Un passage aux urgences coûte 200-250 euros à la collectivité. On sera toujours gagnant. En contrepartie, sous peine de déconventionnement avec l'assurance maladie, 1. Vous remplissez mon espace santé. 2. Rétablissement d'obligation de garde à l'entrée des urgences. 3. Vous ne pouvez pas vous installer où il y a trop de médecins, où il y a un début de carrière. Je rappelle qu'il n'y a pas de déserts médicaux pour les infirmiers libéraux, pour les kinés, pour les pharmaciens. Comment ça se fait? Et ça, c'est la droite qui a tout lâché aux médecins libéraux. Donc, je veux dire, si on veut être libéral, on n'est pas conventionné. Et là, il faut trouver sa patientèle qui n'est pas remboursée. Mais si on est payé par l'argent public, on a des devoirs envers la collectivité. Donc, il faut faire un pacte avec les médecins. On augmente le prix de la consultation, parce que les médecins s'épuisent à faire des consultations, enchaîner les consultations pour avoir un revenu correct, pour un revenu équivalent à la moyenne européenne. Ils travaillent beaucoup plus que leurs confrères. Donc, augmentation du tarif à l'acte, et en contrepartie, on ne peut pas s'installer où il y a trop de médecins en début de carrière, on rétablit l'obligation de garde à l'entrée dans des urgences et on remplit mon espace santé. Vous voyez, il y a des solutions.
Oui, et en plus, je veux dire, c'est des solutions très concrètes en l'occurrence.
C'est très concret, parce qu'on a travaillé, je suis désolé de le dire.
Non, mais et bravo, c'est rare, visiblement. D'un autre côté, je voudrais revenir quand même au sujet originel, parce que là, effectivement, on est en train de brosser tout un programme, on s'est un petit peu écarté, mais pour revenir sur la question de l'énergie. En fait, ça fait partie des grands chantiers, évidemment. Vous parliez du manque de prévoyance des politiques. Évidemment, on pense évidemment à la question de l'énergie, à la question des sources d'approvisionnement et même à la question de l'électrification, justement. On en est où de l'électrification? On en est où de cette exploitation de notre nucléaire? Parce que pour l'instant, on reste quand même la plupart du temps en excédent énergétique. La France reste pour l'instant encore en excédent
tout
énergétique.
Tout à fait. Non, mais là-dessus, là aussi, c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'on avait nos aînés qui, face au choc pétrolier des années 70, avaient eu la clairvoyance de développer un programme nucléaire pour les émanciper en partie.
Même avant ces chocs pétroliers, j'ai envie de dire.
Bien sûr, même avant, exactement. Donc, on avait des gens qui voyaient loin. Et là, on a à la fois cassé cet outil extraordinaire. On avait 10 ans d'avance à cause des mêmes qui nous dirigent, là, qui font du yo-yo sur le nucléaire, alors que c'est un paquebot. On nous explique en 2018 qu'il faut supprimer 14 réacteurs sur 56. Et maintenant, on nous dit on y va plein pot. Alors, pendant ce temps-là, on a perdu les compétences, on a perdu du temps. On a également l'hydroélectricité. Donc tout ça fonctionne très bien, mais on veut décarboner une électricité déjà décarbonée, mais on marche sur la tête. Ça fait ne serait-ce que les éoliennes en mer et terrestre, c'est 2,5 milliards d'euros par an et on n'est pas capable d'aider nos agriculteurs. Mais c'est hallucinant quand même, tout ça par dogmatisme, parce qu'ils sont prisonniers d'un certain nombre de lobbies, alors que, je répète, on a déjà une électricité décarbonée, on a fait le boulot. Donc on veut dépenser des milliards pour décarboner l'électricité déjà décarbonée. Donc le mix énergétique français, c'est le nucléaire, l'hydroélectricité, éventuellement les hydroliennes, c'est-à-dire des éoliennes avec sous-marines, avec le courant marin qui continue, et éventuellement un tout petit peu de photovoltaïque sur les surfaces inutiles, vous voyez. Mais c'est tout.
Mais d'un autre côté, vous regardez, par exemple, il y a aussi un autre sujet qui est lié à celui-là, c'est que évidemment, on peut mettre la France au 100%, enfin j'exagère, mais 100% nucléaire en tout cas, avec un mix évidemment complètement décarboné, qu'on a d'ailleurs quasiment, enfin je rappelle qu'on est le pays d'Europe qui a l'électricité la plus décarbonée, même devant le Danemark. Mais d'un autre côté, là, l'essence... il nous en faut, on va pas quelque part on reste dépendant de ces pays-là et d'une certaine façon on va pas passer au tout voiture électrique du jour au lendemain.
Et bien sûr, mais là il y a un agenda caché, si vous voulez. Je soupçonne notre gouvernement, ils ont du mal à l'assumer. Ben, parfois, il y a des petites fuites, ils n'arrivent pas à se contenir. C'est que, c'est bien, le carburant est très élevé, comme ça, on va forcer les Français à passer au tout électrique. Sachant que la France ne dégage que 1% au brut des gaz à effet de serre de la planète. Donc, même si on faisait un suicide collectif, ça ne changerait absolument rien, sachant qu'on a fait déjà l'essentiel du travail. Donc, de qui se moque-t-on? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là où vous avez raison, c'est qu'il faut y aller de manière progressive. On a des véhicules thermiques qui fonctionnent de mieux en mieux, qui polluent de moins en moins. Mmh. Voilà, donc soyons pragmatiques.
Mais vous disiez vous-même au début que la raison pour laquelle le gouvernement n'agissait pas sur les prix du carburant, c'est parce qu'il n'en avait pas les moyens.
Bah oui, déjà, mais il y a ça, et puis ensuite, ça les arrange, parce qu'ils sont prisonniers d'un dogme écologiste, vous voyez, je dis bien un dogme, vous voyez, c'est-à-dire qu'on a déjà une électricité décarbonée, mais il faut quand même qu'on fasse des éoliennes, du photovoltaïque, vous voyez, donc il y a des lobbies derrière, on le sait très bien, et notamment l'Allemagne aussi derrière, qui nous tient avec cette histoire de dépendance budgétaire.
Et d'un autre côté, effectivement, sur cette question tout simplement du pétrole et des prix des carburants, je reviens à ça. En fait, est-ce qu'il y a des moyens de faire en sorte d'être un peu moins dépendant de chaque crise ?
Alors déjà, on est loin d'être sorti des hydrocarbures, sachant qu'on a un gisement en face de la Guyane. Alors, les voisins l'exploitent, mais pas nous. Donc, tout ça à cause de la loi Hulot de 2017 qui nous empêche de développer, d'explorer, d'utiliser nos ressources en hydrocarbures. On a un gisement de pétrole qu'on n'exploite pas, sachant qu'on est loin de s'affranchir de la dépendance au pétrole. Et il y a beaucoup plus d'empreintes carbone à importer le pétrole qu'à le produire nous-mêmes. Voyez, mais là aussi, par dogme, on est incapable de revenir à cette loi de 2017 et d'exploiter cette ressource en hydrocarbures au large de la Guyane.
Après, d'un autre côté, il faut rappeler quand même que ça s'exploite pas non plus comme ça, surtout que ça fait 10 ans effectivement qu'on n'a pas exploité de pétrole, mais ça s'exploite pas comme ça non plus du pétrole sous-marin, exactement. Mais d'un autre côté, justement, est-ce qu'il y a des leviers qui nous permettraient d'être moins dépendants de chaque crise mondiale, justement, sur les prix des carburants? Là, on voit qu'ils ont quand même pris 50 centimes, voire même 1 euro par endroit, enfin, des chiffres qui sont absolument exceptionnels. Comment on fait pour être un petit peu moins dépendant de ça?
C'est ce qu'on a déjà fait depuis des dizaines d'années. Vous savez, au cours de la crise des années 70, on avait un retrait de 5 millions de barils par jour du marché. Aujourd'hui, on a 11 millions, mais on n'a pas les mêmes effets, tout simplement parce qu'on s'est affranchi en grande partie des hydrocarbures. On est beaucoup moins dépendant déjà grâce au travail de nos aînés, vous voyez. Donc, il faut continuer dans cette logique-là, avec ce travail de baisse de la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Donc, on est déjà dans ce schéma-là. Et voilà, il faut juste le poursuivre et puis regarder un petit peu plus loin que les échéances électorales.
À propos d'échéance électorale, Emmanuel Macron, lui, se félicite quand même de beaucoup de choses, à commencer par les investissements extérieurs qui seraient réalisés en France. Il explique que la France est devenue un pays extrêmement compétitif et que toutes les entreprises mondiales se battent pour s'installer en France.
Alors déjà, quand on regarde l'industrie en France, le taux d'industrialisation ne cesse de baisser. On est arrivé à 10%. Donc, vous voyez, c'est l'arbre qui cache la forêt. En plus, on crée des systèmes dérogatoires. C'est-à-dire, pour installer une gigafactory, on déroule le tapis rouge, on déroule un certain nombre d'exemptions fiscales. En revanche, la PME du coin, elle, qui emploie 70% des actifs, c'est là qu'il y a des gisements d'emploi, elle est toujours pressurisée par des prélèvements obligatoires, par des aides publiques qu'elle ne peut pas mobiliser parce qu'elle n'a pas les compétences juridiques et administratives, par des normes aussi, des surtranspositions par rapport aux règles européennes. Et là, pour le coup, pour des intérêts étrangers, pour des acteurs étrangers qui viennent s'installer, là, on lâche tout. Et puis, ce sont des gens que vous ne maîtrisez pas. Donc, vous leur donnez un certain nombre d'aides, de subventions, de dérogations fiscales et sociales, et sachant qu'au bout de quelques années, ces gens-là, vous ne les maîtrisez pas, ils peuvent partir. La PME, elle reste.
Vous voyez ? Et même, autre forme d'entreprise dont on parle un petit peu moins dans le débat public, mais ce sont les ETI aussi.
Ben voilà, c'est exactement ça. On a 3 fois moins de grosses PME exportatrices que les Allemands et 2 fois moins que les Italiens. C'est là qu'il faut faire effort. Et donc, moi, je suis fier d'avoir des grands groupes, évidemment, mais ils n'emploient plus que 30% des salariés du privé en France, et c'est plutôt à la baisse, vous voyez. Mais ça, ils sont mondialisés, ils vont là où la croissance est présente, et plus qu'en France. Donc, il faut vraiment faire une politique pro-PME, le capitalisme à visage humain, et en plus, c'est un dossier transpartisan, parce que généralement, ce qui clive entre la droite et la gauche, notamment patriote, c'est pas les questions d'engrais, ce sont les questions économiques. Mais si là, vous allez faire une politique pro-PME, vous savez, la PME, c'est ce qu'il y a de mieux vu par les Français avec l'armée et l'hôpital. Donc, vous voyez, c'est ce que je dis aussi au RN, ou de dire, faites une politique pro-PME, c'est efficace économiquement, Et ça vous ne coupe pas de votre, des classes populaires, puisque la PME, c'est, le, je rappelle, le capitalisme des territoires, de la France des sous-préfectures, c'est ce qui fait tourner le pays, vous voyez.
Mais d'aucuns arguent tout de même, justement, à droite, que finalement, en fait, la PME, c'est pas si utile, parce qu'il faut pouvoir résister aux grands groupes étrangers, donc pour ça, on a besoin, en fait, de tout miser sur les grands groupes.
Bah non, regardez la Suisse, regardez l'Allemagne, l'Italie. C'est vraiment, c'est pas tant. On a plus de grands groupes que l'Allemagne, que l'Italie, mais on a, je répète, trois fois moins de grosses PME exportatrices. Et ce sont ces entreprises-là qui permettent à ces pays-là d'être prospères. Ils ont pas de déficit, ils sont pas face à un déficit commercial abyssal comme celui de la France. Le déficit commercial abyssal vient du manque de notre tissu productif qui est essentiellement composé de petites et moyennes entreprises, en tout cas les moins de 5000 salariés.
Patrice Huban, vous restez avec nous, nous vous retrouverons dans quelques minutes parce que d'abord nous allons écouter la chronique de Richard de Seize.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Alors Richard.
Eh bien, je vais vous parler d'Emmanuel Macron pour changer, Alexandre. Ouais. Voilà, Emmanuel Macron appelle à la diplomatie pour régler rapidement durablement le conflit en Iran. Emmanuel donc nous a expliqué qu'il était prêt à contribuer avec une conférence qui va être mise en place à une mission multinationale pacifique destinée à restaurer la liberté de navigation dans le détroit. Il a même expliqué qu'il fallait ne ménager aucun effort pour parvenir à un règlement solide et durable du conflit au Moyen-Orient par la voie de la diplomatie qui permettent de doter la région d'un cadre robuste permettant à chacun de vivre en paix et en sécurité. Et alors là, il s'est lancé dans un vrai truc macronien, c'est-à-dire il a fait la liste de tous les cadeaux qu'il veut pour Noël. Pour y parvenir, toutes les questions de fond doivent être traitées en leur apportant une réponse durable, aussi bien s'agissant des activités nucléaires et balistiques, pour permettre la reprise le plus rapidement possible d'une navigation libre et sans entrave, faire en sorte que le Liban retrouve le chemin de la paix dans le plein respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Il fallait tout, et d'ailleurs il s'est entretenu avec son homologue iranien Massoud Pezeshkian, l'appelant à saisir l'opportunité que représentent les discussions lancées à Islamabad. Bon, ça c'était évidemment samedi dernier. Depuis, les discussions elles sont un peu nulle part. Macron, il est là avec sa coalition et il est surtout en train de nous expliquer à quel point il est utile sur la scène internationale. Il a reçu Volodymyr Zelensky à l'Elysée, il s'est rendu au Japon et en Corée du Sud, il a téléphoné au président iranien, il est allé voir le pape. En fait, j'ai fait comme d'habitude, je suis allé voir son agenda. Cet homme, il passe sa vie au téléphone. Il a appelé Ahmad al-Shara, il a appelé Massoud Pezeshkian, il a appelé Dramani Mahama, il a appelé Duma Boko, il a appelé le cheikh Tamim bin Ahmad al-Tami, il a appelé Joseph Aoun, il a appelé Mohamed Shah al-Soudani, il a appelé Mohamed bin Zayed al-Nayan, il a appelé Sa Majesté Haitham bin Tariq, il a appelé Shehbaz Sharif. Bah, on a l'impression qu'il y a un truc qui se passe en Orient. Là, quand je lis. Voilà,
et bon. Est-ce qu'ils ont répondu ?
Ils ont répondu à chaque fois, ça dure entre une heure et une demi-heure. Il a même appelé Donald Trump, hein, 19h30, le 8 avril, entretien téléphonique avec le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, et avec les résultats qu'on connaît. Hein, la paix est revenue, la prospérité, enfin, d'une manière générale, tout va bien. Alors parfois, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, c'est simple. Le président n'est pas sorti du champ, il est mécaniquement aspiré par les enjeux géopolitiques. C'est pas qu'il fout rien en France, c'est qu'en fait, il a été aspiré malgré lui. C'est un phénomène physique complexe, on peut pas vous expliquer, mais il y a des experts, voilà. D'un autre côté, on se dit, mais ne ménagez aucun effort pour arriver à un règlement solide et durable qui permette de doter la région d'un cadre robuste permettant à chacun de vivre en paix, en sécurité. C'est vrai que c'est un joli programme. Et du coup, je vais vous parler de la maison de Brigitte Macron, je n'ai épargné aucun effort pour parvenir à un règlement solide et durable. Ben là, elle avait une maison qui valait 2 millions, elle a vendu 3 millions 6. Ah ouais, non, mais parfois, il suffit de traverser la rue. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée en face au Touquet. Mais voilà, donc hier, elle fêtait ses 73 ans. Et bon anniversaire Brigitte. Et elle a bouclé une opération immobilière particulièrement rentable. Alors selon les journaux, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils avaient menti peut-être sur la déclaration de ce que ça valait avant, ni que quelqu'un a considéré que la maison de Macron ça valait le coup. Alors c'est pour en faire visiblement un immeuble de luxe. Donc la maison familiale de Brigitte Macron, transmise en 2014, a changé de main pour la somme de 3,6 millions d'euros. Donc voilà, donc 1,6 million d'euros de plus-value, c'est quand même un peu génial. C'était quoi son programme ? Doter la région d'un cadre robuste permettant à chacun de vivre en paix et en sécurité. Ben, en tout cas, il a doté Macron de quoi vivre en paix et en sécurité. Et c'est une progression fulgurante selon les agents immobiliers, mais ce serait toute la région qui en bénéficierait. C'est le moment de rappeler que Trump a expliqué qu'il aimerait bien que la première dame de France gagne énormément d'argent avec le procès qu'elle a fait contre Candace Owens. Bah là, visiblement, elle compte sur l'argent de Candace parce qu'ils ont déjà décidé de réinvestir dans une nouvelle propriété, au Touquet, toujours, hein, une villa située face à la mer, avec des grands agrandissements prévus. On passe de 366 mètres carrés à 450 mètres carrés et la transformation ne s'arrête pas là. La façade traditionnelle devra être modernisée avec un revêtement plus contemporain. Effectivement, se faire ravaler la façade chez les Macron, c'est un peu normal. C'est une bonne issue pour annoncer le changement d'air. Et d'ailleurs, ils sont pas seul à ravaler hein, la façade et la fierté. Je me suis intéressé, comme tout le monde, à ce que devenaient les macronistes, parce que là, bon, il n'en reste plus trop, mais Richard Ferrand, hein, qui a quitté le gouvernement au bout de deux mois après avoir été impliqué dans l'affaire mêlant intérêts privés et intérêts publics des mutuelles de Bretagne et avoir perdu les élections législatives en 2022, a été promu chevalier de la Légion d'honneur fin 2022. C'est vrai que
il l'a bien mérité.
C'est un type qui est rempli d'honneur. Il occupe depuis mars 2025 le poste de président du Conseil constitutionnel. Christopher Castaner, battu au législative en 2022, a été nommé en novembre 2022 président du conseil d'administration du Grand Port Maritime de Marseille et des sociétés des autoroutes et tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus. Hein, ça lui a permis de garder un pied dans l'État et de vendre son carnet d'adresses à Chine. Et là, il a rejoint Smalltalk. Voilà, je trouve que c'est un peu un symbole. Voilà,
Qu'est-ce que c'est ?
Smalltalk, c'est une entreprise qui s'occupe de robotique océane. Ah oui, c'est Smalltalk, hein. c'est Castaner maintenant. Bah, il y a un moment donné, son carnet d'adresse, il valait quelque chose. Maintenant, c'est Smalltalk. Marlène Schiappa, elle, voilà, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, ministre déléguée chargée de la citoyenneté, secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, bah, elle s'est fait jeter en 2023 après le scandale lié à la gestion du fonds Marianne. Et depuis mai 2024, depuis 2023, elle s'occupe de relations publiques et elle continue d'écrire des romans cochons. Assez médiocre. Quant à Sib Ndiaye, elle aussi qui s'est fait virer en 2020, elle a créé elle aussi une société de conseil, Posidoni, et elle est conseillère principale au sein de l'agence d'influence stratégique NSI. Et donc, bah, tous ces gens-là, en fait, ils ont fait en sorte, eux aussi, hein, de respecter le programme de Macron, faire en sorte d'avoir quelque chose qui permette de se doter d'un cadre robuste permettant à chacun de vivre en paix et en sécurité, et même en richesse, comme on dirait en Macronie. Et pensant que font les Français ? Eh bien, les Français, ils écrivent à Macron. Et une nonagénaire rêve de rencontrer Emmanuel Macron. L'Élysée lui répond. Je ne sais pas si vous avez lu ça. C'est beau comme un conte de fées. René Cashbeur, 94 ans, a confié son rêve à la boîte à idées de son EHPAD. À mon âme, on ne rêve plus. Quel dommage. Ou plutôt si, une rencontre avec le président de la République actuel, un rêve irréalisable. Et alors, les gens ont été super touchés, notamment une animatrice, une aide-soignante. On dit à Macron, il y a René Cashbeur qui veut vous rencontrer. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Mais un vrai conte de fées, il lui a envoyé une photo. Une photo dédicacée, une lettre contenant, indiquant que le président de la République avait été particulièrement touché par le témoignage et jointe à cette missive se trouvait un portrait officiel dédicacé pour René avec mon respect et mon affection. Et ça, c'est vraiment génial. Il y a des gens qui demandent des choses à Macron, par exemple. Il y a des gens qui vont demander un boulot à Macron et Macron, il va leur répondre, il va leur envoyer son bulletin de salaire en disant « J'ai été particulièrement touché par votre désir de trouver un travail pour machin, avec mon respect et mon affection, la copie de mon bulletin de salaire. » Le président de Macron, le Libanais rêve de paix pour son pays, et ben Macron va lui envoyer une photo d'un monument aux morts. Édouard Philippe rêve d'être président de la République, et ben Macron va lui envoyer sa propre photo en disant jamais, jamais, jamais toi. Voilà. Et donc Macron a trouvé un moyen de répandre du bonheur auprès de tout le monde. C'est pas de répondre à ce que les gens veulent, c'est de leur envoyer une photo, un gris-gris, un fétiche, quelque chose qui permet en fait aux gens de se sentir heureux. Et qui sommes-nous pour ne pas considérer
Je me demande ce qu'il vous enverrait à vous, Richard.
Mais je crois que je ne vais pas écrire à Macron. En fait, j'ai pas tellement envie que Macron m'assure. À moi un cadre robuste permettant de vivre en paix et en sécurité. D'ailleurs, je l'ai déjà. Merci au président Bouclet qui est le seul qui m'assure la paix et la sécurité. Et sinon, je ne voudrais pas terminer sans aussi une autre nouvelle. Elle a 73 ans et voici l'activité excellente pour les fessiers et le cœur que Brigitte Macron pratique chaque jour. De temps en temps, on se dit, la presse people, à quoi ça sert ? Ben, ça sert à savoir ce que fait Brigitte Macron de son fessier. Et voilà, le sport occupe une place primordiale dans la vie de Brigitte Macron. Et donc, Brigitte Macron n'est pas avare part de détails concernant sa discipline quotidienne. Et voilà, donc la dame fait une heure de vélo d'appartement tous les jours. Et pour multiplier les bienfaits du vélo d'appartement, elle combine cette pratique avec de la musculation de tapis au sol. Elle n'a pas de coach, elle se débrouille elle-même. C'est une femme libre, c'est une femme indépendante. Elle se dote elle-même
un cadre aussi,
d'un cadre robuste permettant à chacun de vivre en paix et en sécurité. Je tiens à le dire. Voilà, tout ça entre deux ou trois ventes de maisons au Touquet, avec des plus-values à 1,6 million d'euros, juste avant de se ravaler la façade. Et ben voilà, donc c'était ma chronique macronienne du jour.
Merci beaucoup Richard, c'était très bien, bravo. Et chers auditeurs, si jamais vous voulez entendre d'autres chroniques caustiques de Richard de Sèze, eh bien, il va falloir nous donner un coup de main.
Voilà, pour financer des vélos d'appartement, par exemple, histoire que nous puissions
financer un cadre sûr et
aussi soutenir.rc.fr pour faire votre don en ligne à Radio Courtoisie et ainsi nous permettre de continuer en toute indépendance, puisque nous refusons toute ressource publicitaire et toute subvention. Nous avons besoin de vous, auditeurs, qui êtes les seuls financiers de notre radio. soutenir.rc.fr. Un grand merci d'avance.
Voilà, je rappelle qu'effectivement, on a grand besoin de vous. Vous n'êtes que 2% d'auditeurs à donner. Nous avons besoin que vous soyez 100% pour nous doter d'un cadre robuste. Mais tout de suite, nous passons au face-à-face.
Ligne droite.
Nous avons de la visite.
Le face-à-face.
Alors, revenons avec vous, Patrice Huiban. Je rappelle pour nos auditeurs qui nous rejoindraient ici sur Ligne droite, la matinale de Radio Courtoisie, bien que vous enseignez l'économie de la défense à Sciences Po Paris, que vous, voilà, vous êtes au breveté de l'école de guerre, que voilà, vous avez également, vous êtes le président de Nouvel Essor Français. Alors, il y a un autre sujet qu'on n'a pas encore évoqué aussi, c'est en fait ce qu'on comprend de tout ce que vous nous décrivez, c'est que effectivement, il y a une forme de bureaucratie générale qui s'est installée, d'un système, et vous parlez de refondation. Il y a par exemple, je voyais ça tout à l'heure, un député du Rassemblement National qui parlait de la question des centrales d'achat. Et c'est vrai que la commande publique en France, c'est quand même 400 milliards d'euros, enfin c'est quand même un chiffre qui est... Évidemment, c'est des chiffres qui sont tellement importants qu'on ne s'en rend même pas compte, mais 400 milliards d'euros... Avec évidemment toujours des exemples tous aussi absurdes les uns que des autres, une lampe à 60 euros, une cafetière à 160 euros, un stylo pour 2 euros. Comment ça se fait, tout simplement, qu'un système comme ça soit aussi absurde presque et réussi à s'installer, et comment on en sort ?
Alors c'est paradoxal, puisque on a dans la commande publique une logique comptable. Mmh. Une logique comptable, donc on pourrait penser qu'on va vraiment regarder... ceux qui nous proposent des biens et services au moindre coût. Mais comme vous le dites, on est surpris de voir que dans les catalogues de la commande publique, on est censé grouper les achats pour baisser les prix, et finalement, c'est l'inverse qui se passe. Mais au-delà de ça, c'est que aussi on manque de patriotisme économique. C'est-à-dire par rapport à l'Allemagne et l'Italie, qui sont soumis aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, aux règles de l'Union européenne, eh bien, on achète, on a une logique là pour le coût comptable, même si, comme vous dites, les prix sont quand même très élevés, et pas une logique patrimoniale de développement de nos entreprises. Et voilà, donc il faut vraiment qu'on soit dans cette logique-là. Alors peut-être que ça va coûter 10-15% de plus d'acheter auprès des entreprises françaises, si évidemment les prestations sont bonnes, sont équivalentes, mais dans une logique keynésienne, ça va revenir dans le circuit économique français, et ça va permettre d'amortir le choc déjà, d'avoir plus de croissance, plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat. C'est, je répète, c'est ce que font beaucoup plus que nous, l'Allemagne et l'Italie.
Mais même sans aller jusque-là, déjà aujourd'hui, il y a des formes de gabegie absolue. Je vous disais, c'est ce que cite ce député Brix-Allemand, mais qui existe. Par exemple, 90 euros pour une lampe, une lampe simple, ou alors 400 euros pour une cafetière. Oui. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que l'État devrait payer 10 fois plus cher sa cafetière qu'un particulier?
C'est pour ça qu'il faut remettre en cause les centrales d'achat. Quelque part, il faut redonner un peu de la liberté. C'est le principe de la loi organique relative aux lois de finances, c'est vrai, hein, de responsabiliser les acteurs, de leur donner la main sur leurs ressources financières, hein, pas que les collectivités locales, mais aussi les services de l'État, les préfets, les présidents d'université, enfin, tous ceux qui gèrent de l'argent public, il faut leur donner un peu de liberté. Alors, il y a le code des marchés publics, il y a des règles, hein, on fait un appel d'offres, il y a de mise en concurrence, mais parce que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a multiplié, en tout cas, on a mis en place de grosses centrales d'achat qui sont censées vous faire des achats groupés pour baisser les prix, mais comme vous l'avez démontré, c'est l'inverse qui se passe. Donc, redonnons plus de liberté à nos acteurs publics, et surtout qu'en plus, les centrales d'achat, parfois, il y a des choses assez aberrantes. C'est-à-dire qu'on vous fait des accords cadres, on vous dit, bah non, vous embêtez pas à faire des appels d'offres, on a tout prévu avec Microsoft. Microsoft, donc on donne des données sensibles, et donc vous avez des gestionnaires publics qui vont se dire, bah ouais, ça a été négocié, on va pas s'embêter à faire une mise en concurrence. On rentre dans l'accord cadre qui a été fait, mais tout ça pour confier nos données. Les données, c'est vraiment le pétrole du 21e siècle. Vous voyez, on parlait de l'hydrocarbure tout à l'heure. Un pays qui ne maîtrise pas ses données, notamment sensibles, les données des Français, les données des entreprises, les données de l'État, c'est un pays qui sort de l'histoire. Parce que les données, c'est le carburant du 21e siècle, c'est le carburant de l'intelligence artificielle qui va générer des gains de productivité énormes dans le public et dans le privé, qui risquent de partir sous forme de licences et de factures aux GAFAM. Donc non seulement, comme vous dites, ces centrales d'achat n'ont pas réussi à baisser les coûts, mais en plus, il n'y a pas cette logique de patriotisme économique qui est une logique de bon sens.
Bien, ce qui est vrai, ces centrales d'achat, notamment les groupements d'achat administratifs, sont censées économiser en fait autre chose. Elles sont censées économiser la procédure d'appel d'offres qui est terriblement lourde. Et donc, et en fait, c'est ça, c'est le gisement, si je veux dire, de productivité, il est dans cette économie-là. Mais en fait, on se rend compte, comme d'habitude, qu'on échange un cheval qui marche mal contre un âne qui boite, et ça ne fonctionne pas. Et le fait d'abandonner le code des marchés publics, en tout cas de l'assouplir, c'est quelque chose qui devrait être possible, en fait.
C'est ça. C'est-à-dire que d'un côté, de redonner davantage de liberté à nos acteurs publics et aussi en remontant les seuils des achats qui ne sont pas soumis à des appels d'offres chronophages, lourds. Voilà. Donc ça, oui, vous avez raison.
On sent que l'État est en fait traumatisé par la manière dont le PS avait mis en coupe réglée le pays avec l'affaire Urba et d'ailleurs les autres partis politiques, et qu'il y a une volonté de moralisation de la vie politique et administrative qui fait que chacun doit pouvoir dire que le moindre euro a été dépensé selon les règles, et donc la règle devenant évidemment la nouvelle morale.
Ouais, mais d'autre côté, comment on fait pour rendre responsable à nouveau justement tous les acteurs publics qui...
Leur donner un budget et qu'ils gèrent. En fait, on en parlait l'autre jour, et notamment je trouve que ces achats informatiques sont tout à fait symptomatiques. L'État préfère demander à des ministres de lancer de vastes réformes. Ces ministres, il y en a un, là, le ministre qui vient de remplacer Amélie Montchalin dans ses fonctions et qui est censé s'occuper des fonctionnaires, vient de lancer une mission d'étude sur l'IA dans la fonction publique. Donc on lance une mission d'étude, après ça on va chercher Soprasteria ou je ne sais quel autre SS2I particulièrement capé en la matière et qui va nous faire dépenser entre 100 et 800 millions d'euros pour gérer la mission, alors qu'on pourrait par exemple dire, ben tiens, je nomme un préfet spécial en charge, il est vraiment responsable, il n'a pas une carrière à mener, sa carrière, cette mission c'est uniquement ça, il va rester coincé, si j'ose dire, dans l'efficacité qui est la sienne, plutôt qu'à chaque fois que le truc commence à trembloter, se faire muter ailleurs, ou que, comme tous les différents DSI des différents ministères, changer d'échelon et donc brusquement expliquer que le paquet merdeux doit être refilé à l'étage inférieur.
En fait, le gros problème, on en revient au projet pour la France. Quand vous n'avez pas de projet pour la France, faut se rappeler ce qu'est le programme d'Emmanuel Macron en 2017, puisqu'il n'y a pas eu de campagne en 2022. C'est 17 pages essentiellement des photos de lui. Il avait dit à l'époque, mais vous savez, la politique, c'est mystique. Il avait dit qu'un programme, ça ne sert à rien. Il a été obligé d'en faire un sur un coin de table de bistrot 3 mois avant le premier tour, puisque bon, c'est un peu une échéance administrative, une obligation administrative, hein, une profession de foi, avec des mesures dans tous les sens démagogiques, comme la suppression de la taxe d'habitation qui sépare le décideur du payeur. Vous voyez, nos maires aujourd'hui, on déresponsabilise les maires, puisque un maire aujourd'hui, tenez-vous bien, il a la main sur 30-40% de son budget. Sur la cotisation foncière des entreprises et sur la taxe foncière pour l'essentiel. Et donc le reste, eh ben, ce n'est pas quelqu'un qui est censé bien utiliser l'argent public, mais c'est un chasseur de primes. C'est-à-dire qu'un maire aujourd'hui, un bon maire entre guillemets aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va tirer la manche du conseil départemental, du conseil régional, qui va pleurer auprès de l'État. Et en plus, s'il va parrainer un mauvais candidat, on va lui supprimer ses aides. Donc vous voyez, on sépare le décideur du payeur. Vous voyez, donc c'est ça aussi qui ne va pas. Donc il n'y a pas de programme. On sépare le décideur du payeur, sachant que gouverner la France, ça ne s'improvise pas du tout. Ce que vous faites sur l'agriculture interagit avec ce que vous faites sur l'écologie, ce que vous faites sur l'économie. Mmh. Et donc, du coup, quand vous n'avez pas de programme, chaque ministre est dans son couloir. Chacun a fait sa petite mesure démagogique pour se faire remarquer dans les médias et pour passer sur les plateaux. Et donc, vous avez Bruno Le Maire qui, pendant des années, nous a dit qu'il faut réindustrialiser en sautant sur sa chaise. Et d'un autre côté, vous avez un ministre de l'écologie qui nous a fait la loi climat et résilience, je crois que c'est en 2021, qui bride les permis de construire. Donc c'est une usine à gaz aujourd'hui, c'est la croix et la bannière pour réussir à implanter une usine aujourd'hui en France. Donc vous voyez, sans compter le prix de l'énergie Alors qu'on devrait bénéficier justement d'un prix de l'énergie électricité bas grâce au travail de nos aînés, ben aujourd'hui on s'est mis dans le marché européen avec un prix d'électricité qui est basé sur le coût marginal du gaz. Mais c'est de la folie, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une succession d'injonctions paradoxales. Donc tout ça, c'est une équation à somme nulle, si vous voulez. Donc ce que font les ministres, tout ça, ça s'annule parce que chacun est dans son couloir, il n'y a pas de programme d'ensemble et tout le monde ne tire pas dans la même direction. Parce qu'il n'y a pas de projet pour la France.
Alors, pas de projet pour la France, mais alors que, justement, il y a plein de gens comme vous qui échafaudaient des projets. Comment expliquer que tous ces groupes de réflexion, toutes ces réunions de couloirs ou même d'antichambres, voire de groupes d'études officiels, au moment où on arrive au pouvoir, tous les travaux sont jetés à la poubelle et restent lettres mortes? Est-ce que l'État profond est contre nous?
Alors, non, je ne dirais pas ça. C'est que, en fait, personne ne joue le rôle de ce qu'on a fait, nous, chez Nouvel Essor Français. J'aimerais bien avoir des concurrents, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent vraiment. C'est de jouer ce rôle d'ensemblier. Parce qu'on va nous dire, oui, il y a plein de rapports, mais les rapports ne disent pas forcément la même chose et traitent d'un sujet, vous voyez, d'un prisme de la politique publique. Et nous, on a joué ce rôle, on a analysé différents rapports de tous les corps de contrôle, des think tanks, etc. Et on essaie, dans une logique gaullienne, c'est quoi le gaullisme? C'est pour ça que c'est intemporel. Gaullisme originel, évidemment. Hein. C'est du pragmatisme et une grande ambition pour la France. Vous voyez, nous, on estime qu'en lâchant la bride sur le coup de nos entreprises, nos PME, et en remettant de l'ordre dans le pays, on est non seulement capable de redevenir le pays le plus prospère et puissant d'Europe en doublant l'Allemagne en 10-15 ans, ce qui, dans l'inconscient collectif, fait toujours du bien. Et même celui-ci au troisième rang mondial, c'est-à-dire derrière les États-Unis et la Chine, doit y avoir la France. La France a plein potentiel et est capable d'être sur le podium au coude à coude avec l'Inde. Voilà la réalité. Il faut donner de l'espoir au pays. Il faut dire maintenant, ça suffit. Il faut arrêter de baisser la tête, de raser les murs. Il faut se retrousser les manches et on va montrer au monde ce dont on est capable. Avec un certain nombre de mesures pragmatiques, on est capable de renverser la table. Simplement, je répète, les partis politiques avec l'élection présidentielle qui écrase tout ne sont plus des laboratoires d'idées qui se présentent aux élections. Ce sont devenus des écuries à égo. C'est le concours de beauté permanent. Pour faire quoi, on n'en sait rien, sachant que gouverner la France ne s'improvise pas du tout.
Il y a quand même un sentiment général qui est que le destin est inéluctable. Le déclin est inéluctable. C'est-à-dire qu'on a ce sentiment que, de toute façon, il y a un déficit de 5%, de toute façon, il y a une dette qui est titanesque. De toute façon, les grandes entreprises françaises disparaissent une à une. En fait, là, ce dont vous parlez, le fait d'avoir une nouvelle ambition, c'est quelque chose qui est réellement à l'opposé de la mentalité générale dans le sentiment global des Français. Je rappelle que plus de 80% des Français considèrent que le pays est en déclin économique.
Ben oui, mais le pire n'est jamais certain, le meilleur n'est jamais acquis. Le problème qu'on a en France, c'est qu'on n'a pas une évolution sinusoïdale, c'est-à-dire qu'avec des hauts et des bas. Nous, c'est qu'on est incapable de réparer le toit par beau temps, on est incapable de se remettre en cause quand tout va bien, donc ce qui fait qu'il faut attendre la chute. Donc on est en retard d'une réforme, on avance d'une révolution en France. C'est ça le drame. Donc, et comme on ne pourra pas régler les problèmes avec ceux qui les ont créés, et comme ils s'accrochent au pouvoir, résultat des courses, hélas, il va falloir attendre une mise sous tutelle financière, un choc externe ou un choc interne, une révolte sociale. Enfin, en tout cas, c'est triste à dire, mais il va falloir attendre ce moment de crise majeure pour enfin pouvoir rebondir avec des nouvelles personnes qui elles, sont animées par l'idée de servir et pas se servir.
Mais alors, pardon, mais qui vous écoute, Patrice Huiban? Qui écoute Nouvel Essor Français? Vous parlez?
Alors, nous, on essaie de jouer le rôle de ce que faisait Jean Moulin il y a 80 ans, mais sans risquer notre peau, n'a pas de mérite. C'est qu'on tire la manche de tous ceux qui disent croire en la France. C'est-à-dire de la gauche qui n'a pas oublié Clémenceau, Mendès France et Jean Zay. Il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a quelques-uns, type Montebourg, type les chevènementistes, et jusqu'au, on n'a pas peur de le dire, évidemment, jusqu'au RN, parce que je leur dis, si vous arrivez aux manettes, on n'a plus le droit d'échouer, aujourd'hui il va falloir se mettre à bosser, et donc nous on a votre disposition, on travaille aussi avec les LR, quelques centristes qui ne sont pas macronistes, voilà, c'est tout. Les gens avec qui on ne travaille pas, c'est ceux qui ne croient plus en la France et qui déconstruisent la nation, qui est l'écrin indépassable de notre démocratie, de l'intérieur par le communautarisme et les filles, de l'extérieur les macronistes qui nous soumettent au droit supranational, et deux, Europe Écologie et les Verts, qui sont à la fois communautaristes et supranationaux.
Mais est-ce que vous avez l'impression d'être écouté, en fait, parce que effectivement, là, dans ce que vous proposez, on ne le retrouve pas forcément dans tous les programmes politiques.
Écoutez l'évolution du discours du RN, par exemple. Il commence à parler de PME, il commence à parler de réduction des dépenses, et il parle de gabegie, de dépenses publiques. Vous voyez ? Donc, alors qu'avant, rappelez-vous, ce qu'on reprochait au RN, hein, c'est qu'ils ne sont pas trop axés sur l'économie, ils font beaucoup de social, c'est une politique de gauche avec du bleu, blanc, rouge. Maintenant, ils parlent de gabegie dans les dépenses publiques, ils parlent de réformer l'État, ils parlent d'avoir une politique pour aider nos PME.
Voilà, surtout que ce n'est pas, c'est pas incompatible du tout avec le fait d'être social en économie dans le fond.
Mais bien
c'est-à-dire
sûr.
Que finalement, l'idée de se débarrasser de ce qui est inutile et de ce qui est coûteux par ailleurs, c'est...
Vous savez, avant de partager les parts du gâteau, il faut le faire grossir. Pour financer nos politiques sociales, nos retraites, notre santé, etc. Et qui font grossir le gâteau, nos entreprises en particulier, je répète, les moins de 5 000 salariés qui emploient en France, qui sont dans nos territoires, qui pour certaines exportent depuis la France, c'est là que ça se passe. Et c'est pour ça que certains pays sont prospères, comme la Suisse, l'Allemagne, un certain nombre de pays, l'Italie, parce qu'elles misent sur leur tissu économique du quotidien. Vous voyez, moi, je suis très fier d'avoir des grands groupes, mais... Aujourd'hui, les grands groupes, ils sont par définition multinationaux, ils font leur croissance en dehors de la France. C'est le jeu, je n'en veux pas, c'est comme ça. Mais nos PME, elles ont pour destination essentiellement le marché français, européen.
Merci beaucoup pour votre analyse, Patrice Huiban. Voilà, j'invite les auditeurs à effectivement aller lire votre tribune dans Atlantico. Crise énergétique, la France au bord de l'asphyxie budgétaire. Même si cet entretien fut, on n'en doute pas, quand même beaucoup plus complet, mais on ne peut pas tout avoir. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et puis on vous retrouvera très bientôt, on n'en doute pas, pour reparler de ces sujets.
Avec plaisir. Merci.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, dans quelques minutes, ce sera Grigor Pupin qui nous rejoindra pour parler de la visite du pape en Algérie, dont vous avez certainement entendu parler. Dans quelques instants, ce sera Gabriel Fouquet qui nous rejoindra. Mais tout de suite, un petit point sur l'actualité avec Richard de Sèze.
Le cimentier français Lafarge a été reconnu coupable ce lundi de financement d'une entreprise terroriste en Syrie à l'issue d'un procès majeur devant le tribunal correctionnel de Paris. Verdict, plus d'1 million d'euros d'amende pour le groupe Lafarge et plusieurs anciens dirigeants dont l'ex-PDG Bruno Lafont ont également été reconnus coupables et condamnés à des amendes et à des peines de prison ferme. Le blocus annoncé par Trump est bien entré en vigueur hier à 16h. Les États-Unis prévoient désormais d'éliminer tout navire iranien qui tenterait de s'approcher de la zone contrôlée par les États-Unis. Certains navires devraient néanmoins pouvoir passer le barrage à condition de n'avoir aucun lien avec l'Iran. L'armée iranienne a bien évidemment réagi dans la foulée par ces mots. Les restrictions imposées par la criminelle Amérique sur la navigation maritime et le transit dans les eaux internationales sont illégales. L'Ordre des médecins de Paris va être dissous car l'accumulation des dérives pointées dans un rapport de l'Inspection Générale des Finances était devenue insupportable. Des médecins condamnés, y compris pour des faits graves, toujours inscrits en procédure disciplinaire, en interne des dépenses injustifiées et une gestion opaque. À cela s'ajoutent 2 élections annulées pour fraudes et irrégularités, une accumulation de dérives sur plusieurs années qu'il était devenu impossible d'ignorer. Et nous célébrons en ce 14 avril Sainte-Maxime, Sainte-Lidvine, Saint-Tiburce et Saint-Valérien.
Eh bien, bonne fête à eux, merci Richard.
Ligne droite.
Et nous retrouvons désormais Gabrielle Fouquet, historienne de l'art, auditrice de l'Institut Iliade, pour sa chronique hebdomadaire. Bonjour Gabrielle, vous allez bien ?
Bonjour Alexandre, ça va et vous ?
Eh bien écoutez, pas trop mal. Alors, on vous écoute.
Saviez-vous qu'en 2014, Anne Hidalgo avait 21 adjoints à la mairie de Paris ? En 2022, pas moins de 37 ? En 2026, mandature sans Jeux Olympiques oblige, le très socialiste Emmanuel Grégoire n'en a plus que 36. Après juin 36, voici donc venu l'avril des 36.
Un adjoint de moins, c'est déjà un progrès, non ?
Ça le serait si le malheureux sacrifié n'était pas l'adjoint au patrimoine. Il est vrai qu'un adjoint à la vie nocturne et un autre à la condition animale manquaient cruellement. Et ce n'est pas comme si la ville de Paris n'était pas en charge de 86 églises, 9 temples, 2 synagogues, 240 fontaines ornementales, 37 ponts, 500 statues, 30 passages couverts et des dizaines de milliers d'archives et d'œuvres d'art.
Le patrimoine ne dépend pas de la culture, rassurez-moi, il y a bien encore un adjoint à la culture.
Oui. Toutefois, culture et patrimoine sont deux secteurs différents. La culture crée et produit, tandis que le patrimoine conserve et transmet. Les deux sont nécessaires et les deux réclament une attention politique distincte. Un adjoint à la culture, fût-il excellent, ne peut pas simultanément piloter la restauration des fontaines Wallace, défendre le petit patrimoine d'arrondissement contre les appétits des promoteurs et coordonner les relations avec les monuments historiques. Paris reçoit chaque année des dizaines de millions de visiteurs. Une part écrasante d'entre eux vient pour ce que les siècles ont construit, pas pour ce que les dernières décennies ont produit. Cette réalité économique et symbolique mérite mieux qu'une délégation de troisième rang. Fut un temps où Paris valait bien une messe, aujourd'hui elle ne vaut même plus une chapelle. La liste des adjoints est toujours un acte politique. Elle dit ce qu'on tient pour essentiel, ce qu'on juge secondaire et ce qu'on relègue. Dans le Paris d'Emmanuel Grégoire, la résilience, la démocratie de proximité et le plan vélo ont droit à un portefeuille chacun, mais pas 20 siècles de mémoire vivante. Pas innocente pour dessous, puisque c'est aussi de cela qu'il s'agit, cette hiérarchie traduit une vision de Paris comme ville de flux, de création contemporaine, de présent perpétuel, plutôt que comme ville de transmission, de continuité et d'héritage assumé.
Et Emmanuel Grégoire avait pourtant défendu fièrement un manifeste pour une nouvelle esthétique parisienne, non ?
Si, tout à fait, en 2021. Il était alors premier adjoint. Ce manifeste promouvait la simplification du mobilier urbain, la protection des éléments historiques et l'amélioration de la qualité des aménagements. « Les paroles, les paroles, les paroles !» chantait l'autre. Durant sa campagne de 2026, il promettait encore la nomination d'un directeur artistique et des investissements patrimoniaux renforcés. Mais son programme, lui, ne contenait aucune véritable politique patrimoniale. Là, on peut dire qu'il a bel et bien tenu parole. Plutôt qu'un citoyen élu démocratiquement par ses pairs au Conseil de Paris, le nouveau maire a préféré une conseillère déléguée, nommée arbitrairement par lui, révocable à sa guise, sans légitimité propre. Ni Anne Hidalgo, ni Bertrand Delanoë n'avaient osé aller jusque-là. La première a eu la même adjointe, de plein exercice, pendant 6 ans, tandis que sous le second, patrimoine et culture formaient le premier portefeuille de l'exécutif. Retirer à Paris ses arènes, Notre-Dame, les hôtels particuliers du Marais et les grilles du parc Monceau, que vous reste-t-il ? Métropolis, l'esthétique expressionniste en moins. Centralisme oblige, tout notre roman national défile sur les avenues de la capitale. Il ne s'agit pas d'un décor folklorique pour le cinéma, mais du cœur battant ainsi que de la longue mémoire de tout un peuple. Nous faisons donc face à une double offensive de destruction massive. L'une, brutale, venue de l'extérieur, qui avance, le visage découvert. L'autre, calculatrice, active depuis l'intérieur, qui se cache derrière un masque de vertu. Si l'enfer est pavé de bonnes intentions, les rues de la soi-disant plus belle ville du monde, déjà pleines de nids de poules démagogiques, ne seront bientôt plus pavées du tout. À défaut de pouvoir nous en remettre à Grégoire d'Agrigente, saint patron pour la conservation des biens archéologiques, tournons-nous toujours vers Sainte-Geneviève qui repoussa les barbares qui devaient bien être au moins 36.
Merci Gabriel Fouquet, comme quoi même les socialistes, c'était mieux avant. Et tout de suite, nous passons à l'entretien avec Grégoire Pupin et je laisse pour cela le micro à Richard de Sèze.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Ligne droite, débattons-en.
Et nous allons donc débattre avec Grégoire Pupin, juriste, directeur de l'ECLJ, du voyage du pape en Algérie. Bonjour Grégoire Pupin.
Bonjour Richard de Sèze.
Vous êtes donc directeur d'un centre d'études qui intervient sur toutes les questions de droit et notamment de droit de l'homme. Vous avez publié il y a quelques jours, et ce n'est pas un hasard, un épais rapport justement sur la situation des chrétiens en Algérie. Qu'il s'agisse des protestants ou des catholiques, et un rapport qui, évidemment, est tout à fait alarmiste. D'ailleurs, Ségolène Royal a expliqué que c'était presque de l'infox et que tout se passait très bien en Algérie, qu'aucune église n'était fermée, et qu'en fait, il y avait une liberté religieuse non pareille, et qu'on n'avait jamais vu ça, et que même, qu'évidemment, l'Algérie était un modèle. Ça vous a un peu énervé ?
Franchement, je ne comprends pas l'attitude de Mme Royal, j'arrive pas à l'expliquer. Autrement que simplement en prenant les éléments de langage du gouvernement algérien, un peu c'est ce qu'on peut lire dans son message sur X, où elle dit que tout va bien. En fait, ce qui se passe actuellement en Algérie, c'est comme si la France avait fermé toutes les mosquées de France, sauf la Grande Mosquée de Paris, et que nous recevions un grand chef musulman pour lui faire visiter la Mosquée de Paris, que nous aurions au préalable repeint, nettoyé, etc. Et en disant, regardez comme... nous sommes libéraux, regardez comme nous avons la liberté de culte. D'ailleurs, la mosquée est pleine le vendredi. Et donc, c'est la preuve que tout va bien. Donc, en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. En Algérie, il y a en fait de nombreux chrétiens. D'un côté, il y a les 8000 étrangers catholiques qui sont des Européens, des Subsahariens, qui sont tolérés en Algérie, tolérés. Donc ils peuvent être là parce que étrangers, ils sont acceptés en tant que catholiques parce que étrangers, à condition de bien prier uniquement dans les églises, de ne pas faire de bruit à l'extérieur, de ne pas évangéliser. Et dans ce cas-là, ils sont tolérés.
Alors, ne pas évangéliser, c'est très important, puisque parler du Christ à quelqu'un, oui. ça s'appelle chez eux ébranler la foi des musulmans, et oui. c'est passible de 5 ans de prison.
Exact.
Donc, voilà, donc on ne voit pas bien où Ségolène Royal trouve qu'il y a une liberté religieuse.
En fait, oui, c'est tout à fait. En fait, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il protège la foi des personnes, la foi musulmane des personnes par le droit pénal. Ça veut dire que normalement, la foi religieuse, c'est assez fort pour se protéger par soi-même. On n'a pas besoin d'empêcher les gens de critiquer, voyez, avec la menace de l'emprisonnement. Or, l'Algérie, mais comme d'autres pays, protège cette foi par la loi pénale et donc interdit à quiconque de critiquer, de mettre en cause l'historicité de certains éléments de l'islam ou de parler de l'évangile. Et donc, si quelqu'un parle de l'évangile, il s'expose à une peine de 5 ans de prison, même s'il parle en privé, parce qu'il peut être dénoncé. Donc c'est effectivement une situation qui est grave, qui s'applique aux catholiques, et ensuite qui s'appliquera aussi à l'ensemble des chrétiens. Autre élément, depuis 2020, la constitution algérienne a été révisée, et le gouvernement a retiré la liberté de conscience. Donc il n'y a plus, en Algérie, de garantie constitutionnelle de la liberté de conscience. Il n'y a pas non plus de liberté de religion. Il y a à la limite une certaine liberté de culte pour le seul culte catholique toléré dans les murs des églises et d'ailleurs sous contrôle de la police du gouvernement.
Il est temps de rappeler que l'islam est d'ailleurs la religion d'État officielle de l'Algérie, autrement dit, c'est pas du tout un État laïque, c'est un État musulman. Et il y a comme ça, une persécution réelle des chrétiens. Alors, on a parlé des catholiques étrangers, mais les catholiques qui sont algériens sont clandestins. La Kabylie, qui fait partie de ces régions qui ont d'ailleurs annexé par la France à l'Algérie et qui ensuite a perdu sa propre guerre d'indépendance contre l'Algérie, comprend de nombreux chrétiens qui sont persécutés par le régime. Le pape Léon XIV arrive en Algérie en expliquant qu'il faut faire des ponts entre la foi musulmane et la foi catholique. Et on a l'impression d'un discours très irénique, ce qui est très bien, mais d'un discours un peu détaché des réalités.
Alors, j'écoute ces discours aussi avec attention. De même que ces discours, les discours qu'il a pu prononcer en Turquie précédemment, ou au Liban. En fait, il y a deux niveaux d'action. Vous avez, on peut voir le voyage à court terme, dans l'immédiat, en se disant c'est un bon point pour le régime de Tebboune, parce que ça lui donne un crédit diplomatique, ça montre qu'il est fréquentable, pas bien le voir, ça lui donne une certaine puissance, une certaine aura. Et donc le régime de Tebboune gagne à cela, dans le point de vue immédiat. Mais on peut aussi voir dans la durée. Le fait que le pape soit allé en Algérie, qu'il ait mis en avant la figure de Saint-Augustin, peut aussi avoir un effet beaucoup plus profond en rappelant aux Algériens qu'ils ont une identité chrétienne pré-islamique. Et ça, chez ce genre de peuple, la question de l'identité est extrêmement sensible parce que ce sont des peuples qui sont fragiles. Vous avez parlé des Kabyles. Les Algériens se prennent pour des Arabes, ce qu'ils ne sont pas. Manifestement, ou alors très peu.
Ils se prennent pour des Arabes, en partie à cause de la domination ottomane multiséculaire dont ils ont été victimes.
Voilà, qui n'étaient pas arabes, c'était ottoman. Et donc, ils sont musulmans, ils sont islamisés, et donc il y a par l'islam, en fait, un processus d'arabisation. C'est l'un des responsables du mouvement Kabyle qui m'expliquait, donc, l'islam arabise et l'arabe islamise. Et donc, c'est un cercle. Donc, vous vous prenez pour un arabe, pour un conquérant qui est venu conquérir l'Afrique du Nord, pour un descendant, mais en fait, vous êtes principalement, le peuple est principalement composé de descendants, bien sûr, des peuples qui étaient là déjà à l'époque de Saint-Augustin.
Les Berbères.
Et notamment les Berbères. Et parmi ces peuples, il y a les Kabyles qui sont ceux, un peu comme les Gaulois d'Astérix, qui résistent et qui veulent conserver leur identité, conserver leur culture, leur langue. Et eux, pour résister, on va dire, à l'arabisation, ils n'ont d'autre choix, à certains égards, que de résister à une forme d'islamisation. Et donc, ils ont compris qu'il faut garder une certaine distance à l'égard de l'islam, ce qui est le cas. L'islam n'est pas tellement profond dans les régions kabyles, et c'est aussi ce qui explique pourquoi le christianisme s'est développé avec une très grande force depuis les années 90, en particulier dans la Kabylie.
Donc il y a 150 000 chrétiens évangélistes, évangéliques, pardon, non, alors 150 000 c'est le chiffre avoué, si
c'est
j'ose
ça.
Dire,
voilà.
Le chiffre de ceux qui ont osé faire leur coming out, comme on ne devrait pas dire, mais effectivement il y a une église souterraine, il y a une église des catacombes, il y a une église du silence, comme on disait, au plus fort de la persécution communiste.
C'est ça, en fait ils sont officiellement on dit 150 000 algériens, chrétiens, convertis, de première génération. Tous de première génération. Donc on parle en France là, de cette vague de baptême qu'il y a eu ces dernières années. En Algérie, c'est énorme par rapport à ça. C'est bien plus grand. 150 000 en 20 ans, en 30 ans. Officiels, recensés. Mais ensuite, il y a tous les chrétiens non recensés. Et il y a tous les chrétiens de cœur. Parce que dans les pays musulmans, beaucoup de personnes sont chrétiennes de cœur, mais n'osent pas le dire. Vous avez notamment beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes qui n'osent pas le dire à leur conjoint. Et donc elles ont un culte. Un amour du Christ, mais elle le garde pour elle. Et donc il y a énormément de chrétiens, c'est pareil dans d'autres pays, si on peut parler de l'Iran, il y a aussi des centaines de milliers de chrétiens, on ne sait pas combien. Et les chrétiens d'Algérie ne veulent pas se compter, parce qu'ils ne veulent pas non plus que le gouvernement le sache. Le gouvernement a pris peur devant cette vague de conversion. Vous savez, on dit dans l'Église, on dit toujours que les martyrs, le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Il y a eu 19 martyrs catholiques en Algérie dans les années 90, et au même moment, il y a eu cette vague immense de conversion. Et donc, le gouvernement a pris peur. Il a voulu poser des barrières, empêcher. Donc, il a posé, à partir de 2006, toute une série de réglementations, notamment la loi qui interdit de convertir, la loi qui protège du blasphème, donc c'est-à-dire qui peut aussi être employé pour condamner des personnes qui critiqueraient Mahomet ou l'islam, et puis des règles administratives qui ont eu pour effet de fermer toutes les églises chrétiennes algériennes, autochtones. Il y en a au moins une cinquantaine, peut-être 58 églises qui ont été fermées, mises sous scellé, les dernières ayant été fermées en janvier 2025. Donc aujourd'hui, les Algériens...
Et avec une quasi-impossibilité d'en rouvrir, puisque vous le signalez dans votre rapport, les procédures administratives pour devenir une association cultuelle et ensuite avoir le droit d'ouvrir une église, ce sont deux procédures qui sont à la fois lourdes, opaques, complexes.
C'est ça. En fait, au départ, tout était légal. Ensuite, ils ont dit, écoutez, il faut que vous ayez une autorisation pour fonctionner. Et pour avoir l'autorisation, vous devez exister en tant qu'association. Sauf qu'ensuite, ils ont fait une deuxième loi pour les associations qui, en fait, retire, un peu comme en France à l'époque en 1901, retire toute existence légale aux églises chrétiennes.
Là, il faut rappeler effectivement qu'en 1901, le gouvernement français, lui aussi un parangon de vertu et de liberté d'expression et de liberté religieuse, a expliqué qu'on avait le droit de créer une association cultuelle, sauf les catholiques et toutes les congrégations religieuses, qui du coup étaient dans un vide juridique complet.
C'est une technique très habituelle. Il existe des associations légales. Vous dites, on va créer un nouveau critère, une nouvelle procédure, visiblement légal et libéral, mais en pratique, les associations existantes ne passent pas cet examen et sont donc ensuite interdites, fermées, sous scellées. Donc aujourd'hui, tous les chrétiens algériens sont obligés de pratiquer dans la clandestinité. Ils font profil bas, ils se rassemblent sur Internet, ils se rassemblent chez les uns, chez les autres, mais en tout cas, il ne faut pas se montrer. Et donc on peut vraiment dire que les chrétiens algériens sont clandestins et sont oppressés par le régime. Il y a des chrétiens algériens en prison. Parce qu'ils sont chrétiens, parce que ce sont des responsables des églises, aussi parfois parce qu'ils ont des engagements kabyles.
Vous citez même le cas de Slimane Bouaf, donc ancien musulman converti au christianisme, défenseur de la liberté religieuse, qui s'engage publiquement. Il est emprisonné, il quitte l'Algérie, trouve refuge avec un statut de réfugié politique en Tunisie. Ni une ni deux, l'Algérie le fait enlever et le rapatrie, en Algérie.
Alors, donc il y a, c'est un régime qui est pour lui, c'est un exemple. Lui, c'est un exemple le plus marquant de la vraie persécution contre des responsables chrétiens algériens. Et donc, il a été ramené, il a été torturé, il est maintenant sans rien, il a perdu tous ses biens, donc il est vraiment dans une situation extrêmement difficile. Et il n'est pas le seul. J'ai rencontré aussi d'autres chrétiens algériens qui ont été condamnés, qui ont été poursuivis, qui sont en procès, pour exercice notamment illégal du culte. Parce qu'une fois que vos églises sont fermées, et que si vous vous rassemblez quand même avec quelques amis chez vous pour prier un dimanche, eh bien, vous pouvez être condamné pour exercice illégal du culte chrétien. Donc en fait, tout est fait pour empêcher, mais simultanément, donc on a parlé de la Kabylie, on pourra y revenir, une vague chrétienne, les églises fermées, mais simultanément, le régime, qu'est-ce qu'il fait? il construit des mosquées. Donc vous avez d'un côté interdiction des églises, de l'autre côté construction des mosquées pour islamiser, pour arabiser, pour renforcer cette idée que l'Algérie serait un pays arabe et musulman. Exclusivement un pays arabe et musulman, ce qu'il n'est pas au plan historique, et le pape vient le rappeler de façon magistrale en parlant, en rappelant la figure de Saint-Augustin, et ce qu'il n'est pas aujourd'hui avec la présence de ces Kabyles qui ne sont pas arabes et qui ne sont pas foncièrement musulmans. En Kabylie, vous ne jurez pas au nom de Allah, vous jurez au nom de toutes les divinités, de toutes les croyances, parce que vous ne voulez pas
choisir,
vous ne vous voulez pas, voilà. Ensuite, en Kabylie, c'est une femme kabyle qui me disait ça, il y a des usages chrétiens qui sont restés. Les dernières églises chrétiennes ont disparu au XIe, XIIe siècle, donc les héritiers de Saint-Augustin. Mais des usages sont restés dans la coutume, dans la pratique, dans les traditions, dans la culture, notamment l'usage de bénir et de faire la croix sur les enfants. Donc les femmes kabyles, figurez-vous, lorsqu'elles changent leur nourrisson, leur bébé, elles lui font une croix avec la main sur le corps, donc de la tête aux pieds et sur les épaules. De la même manière, lorsque les femmes kabyles font du pain, beaucoup d'entre elles font un signe de croix sur le pain. Et ça se transmet de mère en fille. Mais elles ne savaient plus que c'était chrétien. Elles se disent, c'est seulement une tradition, on le fait, ça se fait. Et en fait, c'est évidemment un reste de cette culture et identité chrétienne profonde qui est toujours vivant. Et lorsque ces personnes comprennent en fait que si elles ont une croix autour du cou dans un bijou traditionnel ou si elles font un signe de croix sur leur enfant, c'est parce qu'en fait, leur identité profonde, elle n'est pas seulement kabyle, mais elle est aussi chrétienne. Et bien sûr, ça fait, c'est extrêmement important pour ce peuple.
Le gouvernement algérien, donc une fois plus, qui a expliqué dans sa constitution, c'est l'article 2, que l'islam est la religion d'État en Algérie, donc a constitué un arsenal juridique, et il y a aussi des mesures qui sont absolument fascinantes, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser qu'Éric Zemmour les applaudirait. Les difficultés apparaissent aussi dans la vie quotidienne. L'administration dispose d'une liste de prénoms jugés non conformes à la consonance algérienne. Voilà, et donc, oui. Dès qu'il y a un prénom qui paraît un peu chrétien, fait, l'officier d'état civil est autorisé à refuser le prénom qui ne lui paraît pas algérien, autrement dit musulman.
Vous savez, l'Algérie n'est pas le seul pays, on va dire, où il y a un espèce de processus d'affirmation nationale, de construction nationale, comme on dit dans certaines... La Turquie, c'est pareil. La Turquie, vous avez, en fait, on parle des Turcs, mais les Turcs, en fait, à 80%, ce sont des Grecs et des Arméniens ou des Syriaques qui ont été islamisés, turquisés, qui ont dû changer de nom, prendre un nom en turc, prendre la langue, mais dont toutes les racines et le folklore, la culture est arménienne, elle est grecque, la nourriture, la musique, tout. Donc en Algérie, c'est pareil. Donc l'Algérie veut forcer, on va dire, les gens à correspondre à l'identité qu'elle projette d'elle-même. Mais d'ailleurs, si vous parlez à des Algériens d'un certain âge qui se souviennent de l'Algérie de leur enfance, ça n'a plus rien à voir. Celle d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'Algérie de leur enfance. Donc il y a cette volonté de construire une identité. Ça passe par les prénoms. Donc bien sûr, les chrétiens qui ont des enfants sont obligés de choisir des prénoms ambivalents qui peuvent aller aussi bien pour des musulmans que pour des chrétiens. Vous ne pouvez pas avoir un prénom à consonance trop chrétienne ou trop française, mais aussi d'autres aspects du droit de la famille. Et là, c'est pareil aussi dans d'autres pays musulmans. Une femme chrétienne ne peut pas épouser... une femme musulmane ne peut pas épouser un homme chrétien. Donc ça, c'est la règle de la loi islamique qui s'applique aussi en Algérie. Donc vous avez des contraintes légales sur la vie quotidienne, sur les questions d'héritage aussi. Vous savez qu'un chrétien ne peut pas hériter d'un musulman. Donc des questions de droit traditionnel islamique. Vous avez aussi des questions liées aux sépultures. Un chrétien ou un musulman converti ne peut pas être enterré normalement avec un musulman. Mais en même temps, si vous ne voulez pas qu'il y ait de cimetière chrétien, voilà. Donc il y a beaucoup de complications pour tous ces chrétiens algériens qui sont extrêmement courageux. Et ça, je tiens à le dire, je rencontre fréquemment, et pour faire ce rapport, nous avons rencontré, discuté avec des dizaines de chrétiens algériens, catholiques et protestants. Nous avons aussi rencontré des chrétiens du Maroc, d'autres pays d'Afrique du Nord. Ils sont extrêmement courageux. Ce sont des chrétiens extraordinaires parce qu'ils ont vraiment, pour eux, la foi, la découverte de l'Évangile a vraiment été une immense libération, a changé leur vie. leur a donné la force, le courage, l'ardeur. Certains sont allés en prison, tous ont connu la police. Beaucoup d'entre eux ont été battus, sont harcelés, mais ils ne regrettent rien. Et ils vont de l'avant, ils continuent avec joie. Et c'est quand même une leçon immense pour nous, vieille Europe, qui parfois portons notre christianisme comme un héritage lourd et pesant. Chez eux, quand ils sont convoqués au commissariat, ben pour eux, c'est une expérience comme celle des apôtres, qui sont en prison, qui sont emprisonnés. Donc il y a vraiment une beauté et une grande vitalité dans leur engagement, et une dimension extrêmement importante aussi pour nous, Européens, car si les chrétiens deviennent libres de pratiquer en Afrique du Nord, je suis convaincu qu'il peut y avoir une vague immense de conversion en Afrique du Nord.
Grégoire Pupin, avec ce rapport que vous faites sur l'état de la chrétienté en Algérie, qu'espérez-vous ?
J'espère. D'abord, merci de m'inviter. Je souhaite d'abord informer les Français et les Européens de la situation des chrétiens. Je veux dire, on parle beaucoup d'Algérie, mais on ne savait pas, les gens ne savaient pas qu'il y a tant de chrétiens, qu'il y a ce phénomène extraordinaire. Donc c'est important de le savoir, de le dire.
Tant de chrétiens et tant de persécutions.
Et autant de persécutions. Ce que j'espère, au plan politique, c'est que la France, et aussi l'Union Européenne, mais aussi les États-Unis, exigent de l'Algérie qu'elle respecte la liberté des chrétiens en Algérie. Et nous avons les moyens d'exiger cela dans le cadre de notre coopération bilatérale économique avec l'Algérie. Nous finançons beaucoup de choses à l'Algérie. L'Union européenne a un accord de coopération. Dans cet accord de coopération, il y a une dimension droit de l'homme. Ça veut dire qu'on exige en fait de l'Algérie qu'elle respecte un certain nombre de les garanties fondamentales en matière de liberté publique. Or, jusqu'à présent, l'Union européenne a fermé les yeux très largement sur la situation des chrétiens. Le Parlement européen a adopté quelques résolutions dans lesquelles il cite la question des chrétiens, mais la Commission européenne n'a pas exigé du gouvernement algérien qu'elle respecte la liberté religieuse, qu'elle permette la réouverture des églises, qu'elle permette la réouverture de Caritas. Le secours catholique que les Français connaissent bien est interdit en Algérie. Il a fonctionné pendant des décennies, il a été interdit à la fin de l'année 2021. Parce que le gouvernement a conscience que les catholiques évangélisent même silencieusement par
parce
la charité.
La charité est moins musulmane qu'il n'y paraîtrait, ou en tout cas les musulmans sont moins enclins à la charité que les catholiques, ou en tout cas l'institution musulmane les enclin moins à la charité. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de solidarité, mais oui. Le fait de se lancer dans la construction d'écoles, d'orphelinats, d'hôpitaux, de dispensaires, c'est plus un truc de chrétien.
C'est ça, et donc les autorités ont interdit, fermé de force le secours catholique, donc les catholiques aussi sont opprimés en Algérie, parce qu'ils veulent empêcher, au prétexte multiple, de bien sûr toujours pareil avec l'espionnage, comme
les ingérences étrangères.
Donc moi ce que j'attends, c'est que l'Union européenne exige de l'Algérie que l'Algérie respecte la liberté de conscience et de religion de ses propres citoyens. Voilà. Et qu'on arrête avec la liberté de façade pour les catholiques tolérés dans la mesure où ils sont étrangers, et qu'on regarde d'abord ce qui compte, ça veut dire l'Église algérienne, les Algériens chrétiens.
Alors, c'est le but avoué de votre rapport. Vous l'avez distribué à des journalistes, oui. La preuve, vous êtes reçu ici, vous avez été reçu sur Europe 1, donc voilà. Et est-ce qu'une partie du corps politique a reçu ce rapport ? Avez-vous le sentiment que le Parlement européen est le lieu le mieux à même de défendre la chrétienté ? Parce qu'on a l'impression que sur le territoire de la vieille Europe, pour vous reprendre, ils n'y sont pas vraiment.
Écoutez, qui s'intéresse aux chrétiens dans le monde ? Pas grand monde déjà. Au Parlement européen, il y a quelques députés qui s'y intéressent. On travaille, nous, le CLJ, aux Nations Unies. Donc, aux Nations Unies, oui, on a des résultats. Par les différentes procédures, les mécanismes, on travaille avec un rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion, sur la liberté d'association, qui est allé faire une mission en Algérie, qui a publié des rapports. Donc, c'est un travail de plaidoyer avec des rapports qui sont publiés, qui sont adoptés par les Nations Unies. On pourra dire que ce n'est peut-être que du papier, mais il faut quand même le faire. Parlement européen, des résolutions du Parlement européen sont adoptées. Il y a des Algériens qui vont régulièrement au Parlement. Mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut maintenant, c'est la Commission. Ça veut dire que c'est le gouvernement français et la Commission, qui est un peu le gouvernement de l'UE, qu'ils prennent cela vraiment en main. Et donc, il faut qu'il y ait une pression politique sur l'exécutif européen et national pour que ça devienne vraiment un sujet. Et pour cela, c'est uniquement grâce à la médiatisation. Il faut qu'il y ait la médiatisation, puis que les députés, les élus, grâce à la médiatisation, comprennent que c'est important et qu'ils exigent de la Commission qu'elle place cette question sur la liste de ses exigences dans ses négociations avec l'Algérie.
Voilà, l'Algérie donc qui se présente évidemment comme un État moderne et attaché à la liberté religieuse, à la liberté d'expression, qui a au contraire supprimé la liberté religieuse de ses lois, donc qui peut difficilement prétendre la favoriser. L'Algérie qui a persécuté son propre peuple depuis plusieurs dizaines d'années. Merci beaucoup Grégoire Pupin d'être venu ce matin défendre cette cause des chrétiens, dont on voit bien qu'elle n'est pas juste la cause des chrétiens, mais qu'elle est la cause de tous ceux qui veulent que les gens puissent penser et agir librement.